Prends les moteurs. Mais où est-ce qu'il est, ce camp de Perchman? Le caméflex. Vous êtes complètement tapé ou quoi?
Bonsoir à tous. Et je te laisse continuer.
Alors que la majorité du monde travaillait cette semaine, deux individus que tout oppose sont partis à l'autre bout de la France pour partager une semaine sous le signe de l'alcool, de la mauvaise foi, de la bonne humeur et de l'alcool. Nous étions au Frame Festival et nous avons globalement rien branlé et on est arrivé en retard et c'est pour ça que l'émission démarre un petit peu plus tard ce soir.
Je sais pas si on peut dire qu'on a totalement rien branlé.
Non, mais on a globalement fait une petite semaine de vacances.
On a profité, le terme est profité.
Bref, bonsoir et bienvenue dans Caméflex et on accueille tout de suite les chroniqueurs.
Ouais, c'est un plaisir de vous retrouver. Franchement, on a fait, on vient d'arriver, enfin pour moi et Werner, mais je vous présenterai le chroniqueur Werner juste après. Mais on vient d'arriver en fait, on a débarqué à Paris en train à 19h et donc on est vraiment fatigué, on est vraiment mort. On n'a pas eu le temps de voir tous les films. Enfin si, on a eu, bref,
si,
on y reviendra.
En tout cas, nos chroniqueurs sont là pour nous booster ce soir, oui. Et pour présenter quand même le nouveau chroniqueur.
Oui.
Comment le présenter? Si le savoir est une arme, alors il serait l'AK-47 de la culture.
Oh mon Dieu.
Le magnum de la connaissance. Que dis-je, le missile de la sagesse. Mais... le fringant David Ogia.
Mais si, mais c'est moi.
Mon Dieu. Coucou David.
Quelle présentation, j'en rougis.
Comment tu vas David?
Écoute, je suis bien fatigué aussi parce que la semaine a été extrêmement remplie. Mais ça va, je suis très très content de revenir et de retrouver Werner avec moi comme la dernière fois. Et de vous retrouver évidemment les amis.
Ça nous fait extrêmement plaisir.
Ouais,
on est trop content
de voilà.
Bah, vous avez raison, il faut accueillir des vieux même quand ils sont en EHPAD, il faut les prendre.
Notre quota vieux.
Non, le quota.
Je rigole.
Non, c'est chouette, c'est très chouette. On va essayer de parler de plein de choses intéressantes, de cinéma avant tout.
Et donc toi, pour te présenter brièvement, du coup David, tu participes au podcast Total Tracks,
oui.
sur les
biopics. Sur la musique de films.
Et, pardon, vas-y.
J'ai ma petite émission, Le Rayon Bleu, sur la chaîne YouTube de sonvideo.com, qui m'accueille quand j'arrive à faire une émission. C'est-à-dire qu'ils aimeraient que j'en fasse deux fois plus, et c'est difficile.
Et donc c'est une émission sur laquelle tu parles de format physique et de Blu-ray.
Principalement, voilà, les sorties Blu-ray, les formats physiques, et je me concentre sur des choses, on va dire, les sorties importantes, mm-hmm. parce qu'il y a beaucoup de sorties finalement en format physique. Le physique n'est pas mort, et donc bah, là, l'actu, on va en reparler.
On va reparler de Blu-ray, mais pas que, lors de ta chronique. Et
David, t'es pas tout seul.
Mais non.
Parce que ce soir, on reçoit l'homme sans qui la vie aurait beaucoup moins de saveur, quand même. Il faut le dire, un homme dont la beauté égale la grâce. Werner qui fait son grand retour pour la deuxième fois en tant que chroniqueur.
Incroyable.
Bonjour
tout
le monde.
T'étais là la semaine dernière.
Et oui, j'étais déjà là la semaine dernière.
Et t'es venu avec nous au Frames.
On va te représenter pour les personnes dans le chat qui te connaîtraient pas. T'as une chaîne YouTube, Werner.mp3.
Tout à fait. Sur laquelle je parle de musique et d'industrie musicale.
Comme c'est curieux,
c'est fou. Donc voilà. Et puis oui, on a passé la petite semaine au Frames ensemble. J'en ai un peu perdu ma voix. Je l'ai comme
tous, hein. Je sais pas si vous entendez, mais on a tous une voix un peu pourrie là.
Non, ouais, moi ça va. Excusez-moi.
Toi, tout va bien.
Ça va.
Il est en pleine santé, alors que bon, là, voilà. Donc, vous m'excuserez le chat pour ma voix un petit peu cassée, mais normalement, on va quand même raconter des trucs intéressants, y compris dans ma chronique.
Moi, c'est
en lien avec l'actu.
Moi, c'est comme ça que je l'aime, ta voix.
Waouh.
Elle est profonde, hein.
Et évidemment, j'en profite pour faire des gros bisous à toutes les personnes qui sont là dans le chat, à la fois sur YouTube et sur Twitch. On vous voit, on lit vos messages.
On discute.
Vraiment sur notre écran. Il y a à la fois notre honneur et le chat de l'émission Twitch. Donc, on vous voit et on vous embrasse.
Que
voilà, c'est ça.
C'est beau. C'est beau.
Je voulais aussi rappeler que Caméflex est dispo en podcast. Et oui, si après l'émission, vous n'avez pas pu tout voir, vous voulez réécouter les précédentes émissions quand vous allez au travail, quand vous êtes en voiture, n'hésitez pas sur toutes les plateformes de podcast. Caméflex, c'est tout simple. Et évidemment, on vous conseille aussi d'aller vous abonner à la chaîne YouTube de l'émission si vous voulez revoir les émissions dans leur intégralité.
Les meilleurs moments.
Les meilleurs moments sur YouTube et les émissions aussi dans leur intégralité.
Bon, et donc, on a lancé maintenant la saison 2, et donc dans le nouveau format, maintenant, c'est des chroniques, et je propose tout de suite de passer à la chronique de David, où tu vas parler de James Cameron.
Oui, entre autres, James Cameron qui a une actualité chargée en ce moment.
Ouais, ah oui,
et pourtant, on l'entend partout. Ouais.
Et pourtant, James Cameron ne sort pas de film, c'est ça qui est fou. Il en sort un tous les 10 ans, alors peut-être qu'Avatar numéro 3 arrivera plus vite que le 2. puisque il est prévu pour la fin 2025, peut-être 2026. On verra.
Ouais, c'est ça, il me semble.
On a attendu, plus de 10 ans pour Avatar 2. On
exactement.
Peut attendre un peu pour le.
On n'est pas si pressé, mais moi, je suis quand même un peu pressé parce que si je veux aller au bout de cette série de films, il faudrait quand même qu'il les fasse avant que je sois dans le tombeau. Ça m'arrangerait. Non, mais jamais j'aurais cru imaginer qu'un film que j'ai vu en 2009, je suis pas sûr d'être vivant pour voir la fin des
mais
suites.
Si,
quoi.
Mais si.
Bon, moi non plus.
Non, mais on a tous des inquiétudes. Bon, bref, James Cameron est à l'affiche surtout d'une exposition qui est à la Cinémathèque, d'une rétrospective aussi de films qui est à la Cinémathèque. Alors là, la carrière de James Cameron, elle est pas si importante parce que justement, comme il met 10 ans à faire des films, à une époque, il était nettement plus productif, mais il n'y a qu'une poignée de films qui portent sa signature. Il a commencé chez Roger Corman avec Piranha 2, donc il a plus ou moins rogné, signé,
totalement réalisé.
Ça a été, c'est pas vraiment son film, mais quand même un peu. Puis surtout, il a fait l'affiche, puisqu'à la base, James Cameron, c'est un illustrateur. Et tout l'intérêt de cette très très belle expo dont j'ai ramené quelques photos, on devrait les voir en même temps pendant le live.
Mais d'ailleurs, il parle de Piranha 2 pendant l'exposition ou...
Oui, il y a les affiches. Okay. Alors justement, l'expo est orientée autour de son livre Tech Noir, qui est un livre rétrospectif sur ses illustrations, sur ses créations graphiques. C'est vrai qu'à la base, Cameron, c'est un illustrateur. Et un type qui a fait des matte painting, par exemple New York dans New York 97, c'est un dessin, c'est une peinture de James Cameron, très proche de Carpenter sur pas mal de ses projets. Voilà, un type extrêmement doué, hein, évidemment, hein, plus besoin de le prouver. Et donc, au travers de cette expo,
n'hésitez pas en régie à zoomer sur les images.
D'aller voir des images. Alors c'est une ambiance très sombre parce que justement ils ont fait une ambiance très feutrée sur lequel donc sur chaque mur il y a pas mal de dessins de Cameron de toutes ses époques de tous ses projets et il y a vraiment des projets à avorter, des choses qui se sont pas faites qui sont vraiment intéressantes. Il y a même des extraits de ses tout premiers films qui sont très chouettes à voir à la Cinémathèque. On voit des images de quelques maquettes.
Ok, donc là c'est petit. Là ce qu'on voit à l'image.
C'est petit, mais enfin en vrai, elle fait quand même. Allez, pas si petite.
Ok.
Il y a un xénomorphe taille réelle. Il y a du Terminator, mais bon, c'est pas le plus intéressant, on va dire les props des films ou les objets des films. C'est surtout tous les dessins. Toutes les ambiances qu'ils ont su recréer au travers de sa carrière. Donc moi j'ai trouvé l'expo plutôt chouette, avec une toute petite réserve, c'est comme c'est orienté sur le dessin, justement on aurait aimé avoir plus de props, et il y en a, et en plus j'ai la chance de connaître les gens de Science Fiction Archive, et en ce moment ils font une expo à Saint-Quentin, que je vous recommande, qui est en ce moment même, dans lequel par exemple il y a la combinaison de plongée de Abyss, celle qui va dans les hautes profondeurs, qui est prise par Ed Harris à la fin du film, ils l'ont en expo à Saint-Quentin. Mm-hmm. C'est dommage que la Cinémathèque ait pas fait appel à Science Fiction Archive pour sortir quelques pièces qu'ils ont justement de la collection.
Parce que la collection est énorme. Il y avait déjà à la Cité du Cinéma, il y a quelques années, une magnifique exposition sur le cinéma de science-fiction qui était incroyable. C'était incroyable.
Et donc ils ont en effet quelques très belles pièces. Sur les films de Cameron, et dont Terminator, dont Abyss, donc justement, et voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas ces pièces-là, alors que l'expo de la Cinémathèque est quand même très belle, quand même. On sent qu'ils ont mis les moyens pour présenter les choses de la meilleure manière possible. Elle est assez grande, il y a pas mal de pièces, et en tant que fan de Cameron, on y passe une bonne heure. Alors, je trouve que c'est un poil cher, 14 euros pour une expo.
Ça dure une heure environ.
Voilà, si on prend le temps de lire les cartouches, de regarder tranquillement, ça dure une bonne heure. Bon, moi, j'étais quand même assez intéressé parce que là, on voit en vrai la patte du dessinateur. J'ai jamais trouvé que Cameron était un dessinateur hors pair. Il y a mieux, mais quand même, parmi les grands réalisateurs, c'est un de ceux qui arrive le mieux à s'exprimer au travers de son crayon et à sortir ses idées, ses concepts lui-même, quoi. Ouais. Encore une fois, c'est le mec qui est capable de tout faire. Et c'est le mec à qui on n'en raconte pas, on lui raconte pas du pipeau. Il connaît la technologie, il connaît, quand il fait de la plongée, il s'est lui-même plongé en très haute profondeur. Enfin, c'est un dingo, quoi.
Et l'anecdote hyper connue sur le dessin, c'est que c'est lui-même qui a dessiné Kate Winslet dans le fameux dessin de Titanic.
D'ailleurs, il y a ce fameux dessin de Kate Winslet dans Titanic, mais il y a d'autres esquisses, d'autres projets justement, à des dessins alternatifs. Ils sont vachement bien aussi. Donc voilà, l'expo est réellement intéressante. Si vous êtes sur Paris, c'est une des expos à voir quand on aime le cinéma. Il faut aller voir l'expo de James Cameron.
Et il a fait l'ouverture surtout à Paris.
Là.
Et il était avec Sigourney Weaver.
Bien sûr, il était là pour le lancement de l'expo, ce qui est quand même cool. Il y a eu des masterclass. Oui, où il est venu parler de son cinéma, donc ça c'est
chouette. On en a entendu parler sur Twitter, hein. Tous les cinéphiles parisiens étaient comme des oufs sur l'arrivée de James Cameron.
Mais c'est vachement bien. Encore une fois, c'est rare qu'un réal vienne se confronter à son public, il y passe du temps. Et en plus, il y a une actu.
Oui, parce que c'est pas la seule actu de James Cameron, il y a une très grosse actu, un truc très très attendu depuis des années et des années.
Et voilà, ils sont là, les Blu-ray de Aliens, de Abyss, de True Lies, et il y a eu 2 mois, je crois qu'il est sorti en France, le
Titanic.
Alors ceux-là, ils arrivent dans quelques jours dans vos bacs en France, ça c'est les versions US.
C'est
les versions US, elles sont exactement pareilles.
Il y a des petits changements de design à peine.
Généralement, les versions US ont un fourreau en carton comme ça, et il n'y aura probablement pas le fourreau dans la version française, ça sera juste le disque.
D'accord.
Bon, mais le contenu des disques est exactement le même. Alors ceux-là, vous voyez, ils sont tout neufs, mais j'en ai d'autres versions déjà ouvertes.
Il en a déjà 7 exemplaires de chaque film.
Titanic sort dans une très belle édition collector avec des goodies, un beau coffret qui va prendre beaucoup de place. C'est cool, il vaut quand même assez cher. Plus de 100 euros, je crois, 150.
Ah ouais, c'est quand même un beau morceau.
Ouais. Pour un film que tout le monde a déjà vu 150 fois,
je sais pas si... On est content d'avoir cette version Ultra HD de Titanic, mais... toutes ces nouvelles versions ultra HD, puisque c'est l'idée de ces formats, elles ont quand même été très discutées sur le web depuis quelques temps. Les Américains, évidemment, ont eu la primeur, donc ils ont pu les tester. Et qui dit tester, plus on les teste et plus on les déteste. donc, bon.
Ouais, parce qu'il y a un problème qui fait grincer des dents beaucoup de monde sur ces Blu-ray.
Il y a plein de problèmes et surtout, il y a plein de questions qui se posent. Okay. C'est-à-dire que la question principale, c'est de quoi ils sont partis pour faire ces Blu-ray disques.
Okay. Ouais.
Et c'est pas clair. En fait, rien n'est clair. Soit disant que, par exemple, sur True Lies, ils ont refait un scan du négatif, j'ai de forts doutes. À un moment ou un autre, ils ont fait un scan du négatif, mais récemment, peut-être pas. Il y a peut-être de 2 ans, de 4 ans, sur Abyss, par exemple, ou sur Titanic. Mm-hmm. Titanic, il y a une version 3D qui est sorti il y a quelques années, je ne sais pas si tu t'en souviens, sorti au ciné et en Blu-ray 3D.
Et
bien, a priori, c'est le master qui avait servi à faire l'édition 3D il y a une dizaine d'années, je crois, en 2012, qui a servi à retravailler ce master pour faire la version 4K. Alors, c'était déjà un master 4K, le truc, c'est que la société Parkroad, qui est une société qui appartient à Peter Jackson, qui s'occupait de faire les restaurations de ces films, pas quand ils ont sorti Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, mais aussi qui a fait, Get Back, ou même le truc sur les poilus de la Seconde Guerre mondiale,
le documentaire colorisé,
et retravailler les images, etc., etc. Le truc, c'est que cette société, elle est outillée avec les nouvelles technologies qu'affectionnent particulièrement Cameron, c'est-à-dire l'IA, etc. Et ça se sent plus ou moins sur ces remasters qu'ils ont utilisé des systèmes d'informatique avancés pour régénérer de la résolution et des détails dans certaines images et surtout compenser des gros problèmes techniques qu'il y a surtout sur True Lies. Alors True Lies, allez voir. Alors je vous conseille d'aller voir, je peux conseiller une autre chaîne YouTube.
Bien sûr.
Notre ami du labo de Jay qui a sa chaîne YouTube, le labo de Jay. Et Jay, que je connais bien, que j'ai interviewé, qui sera dans ma prochaine vidéo justement, où il explique comment il travaille pour analyser tous ces films. Il a fait un travail fou sur tous ces films, de Titanic, Aliens, Abyss, et True Lies vient de sortir ce soir. J'ai pu le voir juste avant de venir dans votre émission. Donc,
t'as fait beaucoup de choses, j'en souviens.
Et ben, les questionnements que posent tous ces remasters, en fait, ça pose énormément de questions sur la façon, les intentions. Et par exemple, True Lies, la chose qu'il a remarqué, c'est que le film a énormément de problèmes de netteté, enfin, de mise au point.
Okay.
Mais le film d'origine,
qui a un problème sur le plateau.
Le film d'origine, mais
le film d'origine a un problème énorme de mise au point. La mise au point, il donne 15 exemples de mise au point qui sont pas au bon endroit dans l'image.
Alors juste, moi j'aimerais juste interrompre 3 secondes juste pour vulgariser pour les personnes dans le chat qui comprendraient pas tout. Donc en gros, pour sortir un Blu-ray, il faut rescanner la pellicule du négatif original, qui est vraiment voilà le master du film. C'est ça qu'on appelle un master. Et pour sortir différents masters, donc on peut faire un master en HD. Juste on scanne le film en 1920x1080 et ça c'est un master HD. Et généralement quand les films ressortent en 4K,
on refait
un nouveau scan, et cette fois en 4K, donc on a plus de détails, plus définie.
Il se trouve que ces films étaient pour la plupart scannés en 4K déjà.
Ouais,
il y avait déjà eu des masters 4K. Sauf, il y a Aliens qui pose problème, on a un doute sur un mastering 4K, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a comparé avec le Blu-ray qui date des années 2000, l'image est identique. Je parle pas en termes de rendu, en termes de cadre. Quand tu superposes l'image du 4K et l'image du Blu-ray et que tu fais une suppression, t'as un écran noir. T'as aucun décalage. Ouais. Et ça, si on passe d'un scan à un autre, c'est juste pas possible.
Parce que normalement, on recadre le film
tu refais avec un matériel différent, tu refais un scan, tu ne peux pas retomber pile poil sur le cadre d'époque. C'est pas possible. C'est matériellement impossible. Donc, quand on superpose la copie Blu-ray d'Aliens et la copie 4K d'Aliens, on est au pixel près dans les mêmes points. Donc et ça, c'est juste impossible.
La théorie, c'est qu'ils auraient simplement upscalé de manière artificielle avec les logiciels que James Cameron utilise.
À moins qu'ils aient eu un scan 4K, ce dont on doute. Ce dont on doute pas, c'est que sur les autres films, il y avait vraiment un scan 4K.
Mais ils l'ont bousillé.
non, ils ont voulu faire... Encore une fois, c'est compliqué. Je vous recommande d'aller voir les vidéos de Jeff, s'il explique très bien. Mais ils ont voulu compenser les défauts peut-être qu'il y avait eu sur le film, sur les différents films. Et en compensant les défauts, en fait, ils n'améliorent pas forcément le truc. En plus, Cameron, il a un problème avec le grain. Il déteste le grain de la pellicule. Je ne sais pas pourquoi.
Alors que c'est joli.
Il aime pas ça.
Justement, quand tu scannes un film en 4K, tu vois encore plus le grain. C'est ça.
Donc, il a dégrainé un maximum le film, ce qui, pour moi, est un choix, mais c'est pas forcément le choix que j'aurais fait.
Est-ce qu'il peut rendre la peau très lisse et tout aussi?
Ça donne des affaires un peu cireux au personnage.
Ouais.
Clairement, dans True Lies, il y a une ou deux scènes où c'est horrible.
D'accord.
Okay.
Bon, mais au bout du compte, parce que, On va pas passer 3 heures à énumérer les défauts de ces versions. Au bout du compte, quand on se les projette, moi j'ai un vidéoprojecteur, je regarde les films généralement comme ça, mais même quand on a une télé, ça marche pareil. Les pistes son sont magnifiques, parce qu'ils ont tout remasterisé, je parle des VO, évidemment. Tout a été remasterisé en Dolby Atmos, et là, les élévations sonores, les ambiances, tout ça a été très bien mixé, c'était super agréable. Donc déjà, les pistes son sont nickel. Et puis, au bout du compte, tu regardes les films, je pense que 90% des gens vont pas avoir les petits problèmes.
Plupart des gens vont avoir le truc qui passe les images en 60 images secondes.
Ils vont mettre les DNR des télés pour mettre des frames en plus.
Quoi qu'il arrive,
je les désactive systématiquement.
Ouais, bien sûr. Mais
bon,
il y a beaucoup de gens qui les mettront comme ça et donc auront une image dégueulasse.
Ça va. Quand on est très cinéphile et qu'on aime le Blu-ray, qu'on aime la Ultra HD, on est un peu déçu de se dire que ce remaster, ils ont pris des options, ils ont fait des choix qui ne correspondent pas ou qui me paraissent pas pertinentes. Et surtout, voilà, on a vu ce que pouvait être un très très bon remaster. Moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, ce qu'a fait Jackson justement sur Le Seigneur des Anneaux, est un beau travail de remasterisation en 4K.
Ouais.
Que par exemple, ce qu'a fait Gaumont sur le dernier Astérix de Chaba. C'est un travail de dingo, c'est-à-dire qu'ils ont refait toute la post-prod.
Ouais, ils ont refait le montage à partir des négatifs originaux.
Donc là, tu regardes le truc, tu te dis « Waouh, il y a un vrai gain qualitatif ». Là, c'est pas aussi spectaculaire, même si Abyss, il faut quand même le signaler, il n'y avait jamais eu de
HD. Oui, voilà. Il y a quelqu'un qui posait ça comme question dans le chat. Est-ce que, du coup, le Blu-ray d'Abyss sort vraiment en français?
Oui, il sort la semaine prochaine, tout arrive. Et donc... et en plus, il y a les deux éditions dans le Blu-ray, c'est-à-dire la version cinéma et la version longue.
Okay,
vous pouvez choisir. Pareil dans Aliens. Non, ils arrivent et Abyss n'avait jamais eu de sortie Blu-ray.
C'était le grand truc des cinéphiles depuis des années. Ils réclamaient la version d'Abyss en Blu-ray, quoi.
Bah oui, bien sûr.
Il existait qu'en DVD.
Donc voilà, ne boudons pas notre plaisir. C'est quand même, ça reste quand même, déjà le film est formidable. Et puis voilà, ça reste quand même un très beau master. Le regret, c'est que ça aurait pu être mieux. Mm. Mais il y a aussi quand même énormément de suppléments. Dans tous ces Blu-ray, il y a énormément de making-of, de galeries d'images, de commentaires audio, de trucs. C'est bourré de suppléments. Je crois que c'est sur, je sais plus sur c'est lequel, il y en a 4 heures, 5 heures. Enfin bref, c'est des heures et des heures de suppléments. Et vraiment, si vous êtes cinéphile, le making-of d'Abyss est une folie. Alors, je crois pas qu'il soit en HD parce qu'il date de l'époque.
Ouais.
Mais c'est dingo. Et là, tu te dis.
Il a pas upscalé le.
Non, mais le making of est passionnant et surtout on se rend compte à quel point ça a été dur comme tournage, ça a été compliqué, c'était difficile et c'est bourré d'idées géniales. Donc voilà.
Donc, voilà. Pour toi, ça vaut le coup de.
Pour moi, ça s'achète. Peut-être pas True Lies.
Ouais, le Blu-ray suffit.
Peut-être pas True Lies, mais.
Parce que c'est le moins bon des quatre, déjà.
C'est peut-être. Oui, alors.
Oh, ce film sympa, True Lies.
Moi, j'ai pas dit le contraire, j'ai dit que c'était le moins bon des quatre.
Moi, je trouve que c'est le James Bond de Cameron. Et d'ailleurs, alors, très étonnant, dans l'expo, il n'y a rien sur True Lies.
D'accord.
Il n'en parle pas. Donc,
il assume True Lies, il vient de le sortir.
Oui, bien sûr, le film, mais ça ne fait pas partie du line-up de l'expo. Il n'y a rien sur True Lies.
Et dans sa masterclass?
Ah, je sais pas s'il en a parlé à ce moment-là. Mm. Mais en tout cas, dans l'expo, il y a rien sur True Lies. Ouais. C'est dommage parce que c'est un film, moi, que j'aime bien parce que je trouve que il y a quand même quelques scènes de bravoure assez incroyables.
Ouais.
La scène avec le cheval, l'ouverture très bondienne qui est très chouette, la scène d'action avec l'avion à la fin, ouais. Quand même, l'envoi du bois. Donc voilà, c'est un peu triste. En plus, Jamie Lee Curtis est génial. Ouais. Casting est très sympa.
Oui, de l'association des deux, elle est folle, quoi. Des deux acteurs,
C'est dommage que et le Blu-ray est pas super réussi, enfin avec des guillemets, hein. Ouais. Et y a rien sur True Lies dans l'expo. Maintenant, y a une belle salle consacrée à Titanic, y a de belles choses consacrées à Avatar. Évidemment, y a quand même des trucs sur Terminator, alors on n'a pas parlé de Terminator. Terminator était sorti il y a déjà quelques années en Blu-ray Ultra HD, en Blu-ray 3D. Il avait été mis en 3D. Et en Blu-ray standard, une remasterisation. Je parle de Terminator 2, pardon.
Ouais, Terminator 2 qui avait fait jaser, hein. Vraiment.
Voilà, alors la remasterisation au même titre avait fait jaser parce que DNR, parce que des choix de colorimétrie, pareil. Hein, on retrouve les mêmes critiques sur ces nouvelles éditions.
Moi, j'ai du mal à comprendre cette obsession de Cameron à faire ça. Surtout que. C'est pas du tout comme ça qu'on est censé remasteriser des films, restaurer des films dans de manière. Enfin, les cinémathèques ne font jamais ça, quoi. C'est vraiment le truc qu'elle fuit parce que le but d'une restauration, c'est de rendre la version du film la plus vraie et la plus originale possible.
C'est ce que vient de faire Jean-Jacques Hano, justement. Je l'ai interviewé aujourd'hui. Jean-Jacques Hano qui a 80 balais, mais qui a la pêche. Il a la pêche, papy. Il est vachement bien et donc à l'atelier d'image ils ressortent le mois prochain Le Nom de la Rose qui est pour moi son meilleur film.
Le Blu-ray a l'air magnifique, hein.
Le Blu-ray est sublime avec Sean Connery, le truc a été entièrement remasterisé, le son en VO est incroyable, l'image est sublime et Hano l'a redécouvert. Il a pas participé à la remasterisation, mais il a vu des projections cinéma parce que le film ressort aussi en salle. Et il a dit « J'ai redécouvert mon film avec les images de l'époque ». Et j'ai fait une petite interview où il explique pourquoi il avait choisi de la pellicule Fuji et pas de la Kodak, etc. Il y avait vraiment une volonté de pas virer trop sur les brins que les Américains affectionnaient, tout particulièrement en 70 mm quand il y avait le tirage 70. Voilà, c'est intéressant, l'interview de Hano que j'ai faite, que je mettrai sur le rayon bleu quand je vais parler du film. Voilà, voilà un type qui est vraiment affectionne le fait que les ressorties et les remasters de ces films respectent le film original. Cameron, il fait partie de cette génération de cinéastes comme George Lucas, qui aime amender ses films, qui aime retravailler. Peter Jackson a fait un peu la même chose aussi avec Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, en essayant d'équilibrer la photo des six films, parce que les six films sont censés s'enchaîner.
Ouais.
Je vais y arriver. Quelque part, c'est pas aberrant, si tu veux. C'est juste que
Le fait d'aller modifier son
œuvre. C'est ça, ça fait poser des questions là-dessus.
Éthique, en fait. C'est vraiment des questions philosophiques.
Non, mais la jeune génération s'en fiche. Ceux qui vont découvrir le film en Blu-ray et qui ne l'auront pas vu avant, ça leur pose pas de problème.
Mais moi, j'ai un petit souci avec ça. Parce
c'est
que
juste, vois, c'est juste que Star Wars, par exemple, ça, j'ai la chance d'avoir récupéré des copies 4K pirates, des films d'époque sans modification, mais vraiment tirés des pellicules de l'époque.
Ouais.
Et quand on compare avec le travail de remastering qui est sorti dans les derniers Blu-ray Ultra HD, c'est le jour et la nuit, l'image. Mais vraiment. Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux avant. C'était différent. L'image est moins contrastée, il y a du grain, il y a peut-être un léger flou dû à la pellicule, mais tout ce ressenti pédoche, il était là à l'époque.
Et en
mais
soi,
maintenant, l'image aujourd'hui, elle est sublime. Alors, OK, il y a les modifications de trucage faites par Lucas, ça, c'est chiant. Mais
special editions, ouais.
Mais en dehors de ça, l'image du remastering de tous les Star Wars, de épisode 1, enfin, les derniers, on n'en a pas besoin parce qu'ils étaient dans des technologies récentes, mais de épisode 1 à épisode 6, c'est sublime. Alors après, moi, les modifications qui ont été faites dans l'histoire et dans les personnages et dans les effets spéciaux me gênent. Je préférerais qu'on revienne aux versions d'origine. Mais mine de rien, quand tu revois une copie d'époque qui est un peu molle, qui est un peu terne, qui n'a pas les contrastes et tout, qu'on peut retrouver sur une copie moderne, bah, ça me plaît, mais je comprends l'engouement qu'on peut avoir sur un master moderne et qui apporte une fraîcheur, une modernité incroyable à des images qui ont 40 ans, quoi.
Ouais, généralement, ce qui se passe dans les cinémathèques, c'est qu'elles font appel au directeur photo original du film et elles travaillent la colorimétrie des films avec lui. Et donc, t'as certaines restaurations qui ont vraiment une très très belle image, mais le directeur photo a eu son avis à donner sur le produit fini. C'est vrai que
ce qui est un peu normal quelque part.
Ouais, ouais, bien sûr, parce que le but c'est de revenir à l'essentiel, ce que le film comment le film a été fait, vraiment pas ce que le film voulait être, comment le film a été fait à l'époque, sa version ultime.
Ouais, mais tu vois, à côté de ça, par exemple, on a revu l'autre jour Retour vers le futur. Ah. Les deux ensemble. Et
ils ont changé les effets spéciaux dans le Blu-ray 4K, voilà. Dans le futur, ils ont fait des petites améliorations.
Ah bon,
des effets
oui,
spéciaux.
Mais à côté de ça, en fait, il y a tellement des trucs qui ont été upscale que tu vois.
Bah, c'est pas upscalé dans le Blu-ray 4K de.
Il y a des trucs que tu voyais pas sur sur les autres.
Tu vois les petits défauts d'effets spéciaux et tout. Mais moi, je trouve ça bien parce que en fait, c'est comme ça que les films ont été tournés, quoi. C'est la pellicule d'époque. Et Retour vers le futur, ouais, dans le 1, ils ont, tu sais, il est à cheval sur les traînées de feu de la DeLorean, vraiment dans le parking, dans la scène de parking. Et en fait, il y avait un effet spécial qui était loupé à l'époque, où en fait, il marchait sur le feu, vu qu'il y avait un blue screen.
Il
marchait vraiment sur les flammes et ça, il y avait
un. Ils ont corrigé ça?
Et ben, en fait, ils ont redétouré, ils ont recréé des petites flammes qui passent par-dessus le pied. Et du coup, maintenant, il n'y a plus de problème.
C'est vraiment un détail.
Ouais.
Mais c'est pas. Bon,
mais je trouve pas ça terrible quand même de faire ça. Et au moins, notamment dans les versions de Cameron qui sont très très poussées là-dedans, où vraiment ils changent toute l'image du film pour rendre les contours plus nets, pour enlever le grain et pour refaire toute la colorimétrie de tous ces films. Je trouve ça dommage de faire en sorte que ce soit les seules versions disponibles et de pas laisser comme Star Wars les deux versions accessibles
et
au public.
Et encore une fois, je vais quand même défendre ces deux Blu-ray qui sont les plus importants, hein. Parce que Titanic, on avait déjà des belles copies.
Ouais, ouais.
Avant le Blu-ray 4K, je veux dire, c'était un film auquel on pouvait accéder de bonne qualité. Ça, c'est vraiment la nouveauté qui nous intéressait, qu'on attendait, Aliens, parce que le film est vraiment incroyable. C'est vraiment le premier film de Space Marine qui, ça, c'est dément. Et Abyss aussi, parce que Abyss, c'était une prouesse technique à l'époque. Ça reste toujours une prouesse technique. Hein, le tournage sous-marin, c'est du délire. Vous pouvez pas ne pas les avoir chez vous si vous êtes cinéphile. Et franchement, vous reprendrez beaucoup de plaisir à les revoir malgré toutes les modifications. Et surtout, je mets au défi les gens de se souvenir précisément que tel plan était plus dans les bleus. Enfin, tout le film était dans les bleus. C'est vrai qu'il en a enlevé beaucoup pour remettre un peu de couleur chair. C'est peut-être pas plus mal de ce côté-là. Mais je suis d'accord avec toi. On aimerait avoir une trace de ce qu'on avait vu à l'époque.
Mm-hmm.
Pour pouvoir le comparer, pour pouvoir choisir en fait ce qu'on a envie de voir. Bon, mais maintenant voilà, ça reste quand même, enfin, je recommande l'achat en tout cas d'Aliens et Abyss. Après tout, là, si vous aimez bien le film, le Blu-ray se regarde quand même, hein, on va pas, voilà. Titanic, si vous aviez déjà la version Blu-ray ou la version Blu-ray Ultra HD 3D, pardon, que j'aime beaucoup, et que vous aviez encore du matériel 3D, Vous pouvez vous dispenser de la version 4K. Maintenant, si d'accord. vous ne l'aviez pas, c'est un film à voir. C'est quand même un grand film.
Et juste question pour finir, au niveau des bonus, est-ce qu'ils ont
énormément de choses
sympas?
Oui, oui, oui. Ils ont remis les bonus qui étaient dans les disques d'époque la plupart du temps, et ils ont rajouté quelques bonus. Mais comme les disques étaient déjà très fournis en bonus à l'époque, je veux dire, c'est complet. Autant sur Abyss que sur Aliens que sur les autres, voilà. Enfin, c'est un vrai bonheur d'aller se balader dans ces bonus. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Non, on peut pas. Non, ils ont fait le taf. Maintenant, voilà, c'est toujours pareil. Comme c'est des films tellement emblématiques et qui étaient tellement attendus depuis tellement longtemps, que on attendait autre chose. Ouais. Et maintenant, je peux pas non plus cracher dessus, quoi.
Ouais.
Ok. Et donc ça sort dans deux jours.
Ça sort vers le 20, 23, 24.
Ça sort dans
ça
la
sort semaine. Très vite.
Ouais,
très,
ça
très
sort vite. Là.
Ça sort très très vite. Vous l'aurez très très vite.
Et oui, tu vois, il y a des gens dans le chat qui disent le DNR c'est toujours compliqué à regarder.
Bah oui.
Johnny Bigot qui nous dit ça et Mister HS qui dit ils peuvent pas faire deux versions différentes. C'est vrai que c'est tu vois Star Wars, c'est ce que les fans demandent depuis des années ouais. et des années.
Oui, mais Star Wars c'est encore pire parce que Star Wars ils ont été poussés très très loin. Ouais.
Ah oui,
les
effets
spéciaux. Enfin, Lucas a été très très loin dans les modifications. Il dit même que a priori il y a plus moyen de revenir en arrière parce qu'il a ils ont modifié les copies.
Enfin, oh, ça c'est un mensonge. Là. les négatifs existent. Enfin au moins une.
En
grande
tout cas
partie.
Disney ne sortira rien d'original avant la mort de Lucas parce qu'il
y a un accord.
Ils ont interdiction de sortir les versions d'époque. En tout cas de son vivant. Après une fois qu'il sera mort, je ne sais pas. Je ne lui souhaite pas de mourir.
Tu crois qu'ils vont essayer d'en profiter?
Tu crois qu'il va mourir?
De Disney profiter d'un. Mais non,
c'est
pas leur genre.
Alors vraiment, c'est pas de la. Ouais, bref, j'arrête. J'ai bugué.
Mais merci beaucoup.
Merci
en tout cas,
beaucoup,
David.
Bah, avec plaisir.
Werner, toi, c'est de l'actu aussi.
C'est de l'actu aussi.
Puisque tu vas parler de Monkey Man qui est sorti hier.
Tout à fait. Donc, Monkey Man, c'est vraiment un des événements ciné de cette semaine.
Ouais.
Et c'est pas pour plein de raisons, notamment parce que c'est le premier film de Dev Patel.
Oui.
Et c'est un premier film qui a l'air d'intriguer
Dev
beaucoup
Patel,
de monde.
Dev Patel, acteur.
Bien sûr.
Qui devient réalisateur.
Tout à fait.
Alors, resitue-nous Dev Patel parce que tout le monde ne connaît peut-être pas.
Bien sûr, je vais revenir dessus. Bon, alors, pour la plupart des gens, Dev Patel, c'est Slumdog Millionnaire, évidemment. C'est vraiment que là qu'il a vraiment eu...
Explosé. Quoi.
Explosé, que ouais, le grand public l'a vraiment reconnu et repéré. Et,
moi, je l'ai pas vu.
Ouais.
Je te jure, j'ai pas. Mais enfin bref.
Non, mais c'est sympa, Slumdog.
Sympa, ouais.
Ouais, mais je l'ai pas dit le contraire.
Puis après, du coup, il a beaucoup papillonné dans plein de projets, notamment deux très bons films, The Green Knight, que moi j'aime beaucoup.
Ouais, ok.
Et Avatar, le dernier maître de l'air. Non, je déconne.
C'est vrai qu'il joue le méchant. Il joue le méchant dans Avatar.
Mon Dieu.
Et voilà. Et donc.
Le film de Night Shyamalan.
Ouais. Et oui.
Forcément. Et oui.
Et oui. Et puis en fait, depuis quelques temps, du coup, il commence à penser de plus en plus à faire de la réalisation. Et donc, d'abord, il a fait un premier pas dans la réal avec deux petits courts-métrages. Un Home Shopper qui est facilement trouvable sur Internet et que je vous conseille parce que c'est plutôt drôle.
D'accord.
C'est un court-métrage très humour noir qui utilise beaucoup des codes de l'horreur et tout ça.
Ah, c'est chouette.
C'est vraiment très rigolo.
C'est un film récent, donc ces deux tentatives.
Ouais,
là,
ces deux tentatives, elles sont assez récentes. C'est vraiment coup sur coup passé okay. 2015, quoi, tu vois. Et le deuxième court-métrage, c'est complètement autre chose vu que c'est un film d'animation. Qui est plutôt introuvable en vrai, qui s'appelle okay. Roborovski. Du coup, j'ai pas réussi à le voir, mais il a gagné plein de prix. Peut-être que c'est bien. La seule chose que je sais, c'est que ça parle d'un hamster. Voilà.
Ok.
Un long métrage d'animation avec un hamster, donc bon.
J'adore toujours plaisir.
C'est génial.
Bah voilà. Et donc ça y est, son premier long métrage a été lancé, Monkey Man. Et donc c'est un film d'action et de bagarre, sauf que ce film, il avait très peu de chance en fait de voir le jour en fait ouais. Dans nos salles. Parce que c'est un projet de très longue haleine et tout ça. Et tout s'est très mal passé, tout le temps.
Okay.
Il n'y a pas un seul moment où la production s'est bien passée.
C'était cool.
David, t'as entendu parler ou pas des galères de prod de Monkey
Alors
Man?
Alors non, j'ai pas entendu parler des galères de prod. Pardon. J'ai regardé la bande-annonce que j'ai trouvée intrigante.
Okay.
C'était espèce de mélange, en tout cas dans la bande-annonce. Après, je sais pas comment ça sera dans le film, mais de mélange entre le film de Bollywood et John Wick. Donc
ça a l'air intrigant.
On est deux univers très. Alors non, j'ai pas entendu parler des galères du pauvre.
Et nous non plus. Ouais, hein. En vrai, là,
on s'est préservé.
On s'est préservé. On a aucune info. On sait juste que ça a été un foutoir, quoi.
Carrément. Je vais tout vous raconter.
Ok, génial.
Mais avant, est-ce que vous êtes déjà abonné à la chaîne YouTube de KBFlex, bien sûr?
Ah bah oui, mince.
annonce.
Bien sûr, c'est hyper important.
Enfin, moi, je suis abonné.
Fait à chaque fois.
C'est hyper important. Yes. On est hyper corpo ici.
Putain, on a même pas à faire les call to action dans notre émission, quoi. C'est les chroniqueurs qui le font à notre place.
En fait, déjà.
Je suis abonné deux fois. Parce que je suis abonné sur la chaîne YouTube, mais je suis quand même aussi abonné sur la chaîne Twitch.
Carrément.
Yes.
Et si vous avez un, et si vous avez un petit Prime, tant qu'on y est, on peut
faites,
y aller.
Oui, n'hésitez voilà. pas à lâcher vos Prime sur la chaîne Twitch quand même.
Faites comme David, faites comme David.
C'est hyper important pour la vie de l'émission. Mais en fait, déjà, pourquoi on sait les coulisses de Monkey Man? Bah, en fait, ça vient un peu d'un subreddit.
Okay.
De Dev Patel, où il a lancé un Ask Me Anything, quelque chose qui se fait très beau, enfin, très souvent sur Reddit. Du coup, il dit bah salut, je suis dispo pour répondre à vos questions. Et donc,
il y a beaucoup de comédiens célèbres qui font ça, qui disent bah voilà.
Et en fait, j'ai envie de discuter, on y va.
Carrément. Et en fait, c'est un peu en train de devenir un des modes de promotion aussi du film, de pour essayer de donner un peu de la proximité entre les gens et les gens qui participent à des films. Et donc, à l'occasion du film, il a pu répondre à plein de questions du style j'en ai noté quelques-unes. Qu'est-ce que ça fait diriger des acteurs qui viennent à la fois des États-Unis et d'Inde? Des choses assez classiques. Quelles sont tes influences? Tout ça, tout ça. Mais il a aussi répondu à des questions sur les conditions de production du film. Et en disant des choses comme, je cite, ça a été la chose la plus exigeante que j'ai pu accomplir de ma vie.
Okay.
On était confrontés tout le jour à des catastrophes.
Ah. Okay.
Donc, il commence à dire des choses. Donc, déjà, avant que le film sorte, les langues commencent un petit peu à se dénouer, tu vois.
Ce qui est hyper rare, normalement.
Ce qui est hyper rare, carrément.
T'as pas le droit du tout d'en
parler. Bah ouais, normalement, en fait, les galères de tournage, on les apprend, mais des années après, quoi.
Carrément. Et donc, en fait, pour comprendre un petit peu d'où part le film, il faut revenir en 2018.
Okay.
Où tout le monde était hyper chaud pour le projet Monkey Man. Parce que, de base, Dev Patel, donc, il est co-auteur et co-scénariste du film. Et il était pas pensé, pour être le réalisateur. À la base, ça devait être Neil Blomkamp.
Okay.
Qui devait réaliser le film.
Okay.
Encore un projet annulé de Neil Blomkamp.
Maintenant, il y en a des dizaines et des dizaines.
Mais en fait, du coup, ben, donc Neil était vraiment pressenti. Il aime beaucoup le projet. Et on a des traces écrites de leurs échanges et tout. Où Neil dit à Dev, non, c'est toi qui dois le faire. C'est ton projet, tu le connais mieux que moi. Et en fait, c'est vraiment des trucs, on dirait genre une parodie de fanfiction. Tu sais comment c'est dit, genre, non, c'est toi dois le faire.
Arrête.
Non, c'est toi. Et vraiment, c'est des échanges comme ça. Il y a des traces écrites de ça, donc c'est un peu rigolo. Mais en tout cas, tout le monde est hyper convaincu, les diffuseurs, les financiers, tout le monde est grave chaud pour un premier film de Dev Patel, donc a priori tout va bien. Et du coup, le tournage est prévu au printemps 2019, et là, c'est un peu le début des problèmes. Et donc, on va découper un peu cette chronique en trois parties, donc avec avant le tournage, pendant et après.
Okay.
Et donc, bah, déjà premièrement, donc, le film n'a failli pas se faire à cause de la thune. Parce que y a eu un petit truc qui est arrivé fin 2019 qui s'appelle le Covid.
Ouais.
Et donc, bah, il y a un des financeurs qui était vraiment pas chaud.
Vous voyez tout ce que c'est, le Covid. Okay. Juste pour
c'est comme une grosse grippe.
C'est ça. Ouais.
C'est ça.
Grosso modo, mais aussi une pandémie mondiale. Enfin, je t'expliquerai au pire.
Je crois.
Et donc, il y a le Covid qui arrive, et avec le Covid, il y a eu la fermeture des frontières. Donc, il y a un des financiers qui était genre, ah, t'es sûr qu'il faut le faire maintenant, tout ça, machin. Mais Dev, en fait, il a réussi à convaincre le financeur pour que ça ait quand même lieu. Et au final, ça n'a pas été tourné en Inde, mais dans une petite île d'Indonésie, pour que ça soit fait dans les conditions les plus safe possibles. Mais c'était du coup un petit peu l'enfer, parce qu'ils ont dû caler 500 personnes dans un hôtel, dans une petite île paumée d'Indonésie.
Pas très Covid.
Et à ce moment-là, les mecs, ils se disent « bonne idée
».
Là, on tient le truc, là.
Parce que c'était vraiment une île isolée, tu vois, mais ils ont dû... qui dit changement de pays aussi, dit pour retrouver tous les lieux de tournage en urgence, parce que ça, c'est fait quelques semaines avant le début du tournage, tu vois. Et même, du coup, il y avait plein de gens qui pouvaient pas venir, en fait. Donc, ils ont dû recruter des cascadeurs depuis des vidéos YouTube.
Ils ont regardé des vidéos YouTube pour trouver des cascadeurs.
Ils ont pris des bandes démos de cascadeurs sur YouTube, genre d'Indonésiens, tout ça, pour qu'ils puissent venir dans le film en toute urgence, quoi.
Oui, parce qu'il y a de la bagarre.
Parce qu'il y a de la bagarre.
C'est un film de bagarre.
C'est un film où il y a beaucoup de bagarre. Et puis même, par exemple, il devait y avoir des figurants qui devaient venir. Et bah, résultat, c'est des techniciens. Donc c'est des coiffeurs, c'est des maquilleurs qui font des figurants parce que il y avait besoin de foule et que ils pouvaient pas ramener autant de foule que ce qui était prévu, tu vois. Et puis, en passant, parce que c'était déjà pas suffisamment galère comme ça, Dev se pète deux orteils avant le tournage. Deux semaines avant, il se pète deux orteils.
Puis ça, pour mettre de la tatane après.
Voilà.
Compliqué.
C'est hyper pratique pour être mobile, en fait, de se péter
des orteils. Je sais pas si on l'a dit, mais il est personnage principal aussi de son film. Il est réal et
acteur principal.
Comédien principal,
Et il fait bagarre.
Il fait bagarre.
Mais ça, c'est que pour avant le tournage. Parce que là, on va rentrer dans le tournage. Et donc, effectivement, c'est un film d'action qui est inspiré de John Wick, des vieux films de Bruce Lee. Et il parle beaucoup aussi de The Raid comme inspiration pour les films de, pour les scènes de bagarre.
Comment ne pas citer The Raid en même temps?
Ouais, c'est trop de la
bagarre. Aujourd'hui, dans le, si tu veux faire un gros film de bagarre, t'es un peu obligé de le mater, The Raid.
En plus, ça a été tourné en Indonésie aussi, The Raid.
Il me semble. Alors là, il me semble aussi.
Ouais. C'est toute une team indonésienne, un réalisateur anglais, mais une team indonésienne.
Et en fait, le film, genre, bah, déjà, c'est un premier film, donc pas forcément beaucoup de budget. Ce qui fait que, par exemple, donc Dave, il raconte sur le subreddit que, eh ben, quand il y a une scène avec une table qui est pétée, coupée, eh ben, on répare la table parce qu'on n'en a pas assez.
Bah oui.
On a genre 3 ou 4
on
tables.
On n'a pas 12 tables,
On n'a pas 12 tables, donc c'est vraiment la galère niveau thune. Et que, par exemple, autre chose, il n'y avait pas suffisamment d'argent pour, par exemple, acheter du verre, parce qu'il y a des scènes, a priori, où il y a du verre qui est pété. Je pense que je spoil pas grand chose en disant ça. Okay. Mais donc, par exemple.
Tu nous gâches toute l'expérience, en fait.
Tout à fait. Et genre, par exemple, bah, le verre, il est acheté avec la carte perso du chargé de prod.
Ok.
Genre, parce que c'était vraiment la merde et que le budget, il était vraiment pas là, quoi. Donc, c'est ce genre de petites choses, déjà. Niveau thune, c'est l'enfer. Et c'est tellement l'enfer que même au point de vue du matos, c'était l'enfer pour tourner. Parce que par exemple, quand les caméras étaient mortes, quand il y avait des problèmes, eh ben, c'était le téléphone de Dev qui était utilisé sur le tournage.
Il y a des images à l'iPhone dans le film ?
Donc il y a des images à l'iPhone. Non, et donc, pour les personnes qui l'ont vu...
Ça, c'est pas nouveau, ça. Il y a plusieurs réals qui l'ont utilisé.
Et donc, ouais, pour les personnes qui l'ont vu ou qui vont le voir, si vous voyez une scène de course-poursuite avec une bagnole et un tuk-tuk, elle est tournée à l'iPhone. Voilà. Enfin, elle est tournée au téléphone de Dev, quoi. Et donc, c'est... Et ça, c'est une des galères, mais par exemple, il y a aussi le fait qu'il y avait des fois les grues qui étaient pétées. Donc, il prenait une corde pour accrocher la caméra en hauteur, et c'était au-dessus d'une foule. Donc, il y avait des gens de l'équipe technique en dessous qui étaient en train de regarder et d'essayer de vérifier comme pour voir si...
Quelqu'un va mourir.
Ouais, voilà, tout simplement. Mais c'est ce genre de truc do-it-yourself, vraiment, à l'arrache.
Et puis alors, les seules thunes qu'ils ont, elles sont dans les caméras, quoi. Grossièrement, le truc tombe, t'es mort.
Ouais. Et puis, en dehors de tout ça, Dev, il s'est pété des orteils, mais c'est pas fini, vu que c'est un film de bagarre, il y a plein de raisons qu'il se fasse des petites galères, donc il s'est fait une main brisée, et il est revenu sur le tournage, parce qu'il a fait Indonésie, États-Unis pour sa main, on lui a mis un plâtre, il a dû l'enlever pour les scènes de tournage, alors que c'était clairement déconseillé par les médecins.
Dev, t'inquiète.
Et pourquoi il l'a enlevé? Parce qu'il avait pas assez de thunes pour pouvoir peindre le plâtre de couleur chair.
Ah ouais, mais ils étaient vraiment à ça près, quoi.
Donc, il y avait vraiment que dalle en thune. Et en plus, genre, il y a encore d'autres choses. Il y a par exemple le fait que, eh ben, il s'est fait une infection à l'œil. Dans une salle de bain. Voilà. Donc, les gens, quand vous verrez le film, vous pourriez y penser qu'il s'est fait une infection à l'œil comme ça. Qu'il s'est déchiré l'épaule aussi pendant une bagarre. Et donc, bah, mais sauf que, bah, il peut pas se faire.
Ça me fait premier degré trop de la peine. Je me dis que ce mec-là, il voulait juste faire son film et en fait, il se chope toutes les merdes.
Ah ouais, genre, il fait ce qu'il peut, quoi. Et en plus de ça, c'est que le tournage. Maintenant, il y a toute la suite où c'est encore un autre enfer.
Et où il y a une polémique aussi qui s'est.
Il y a une polémique.
Il y a une polémique, il y a des rachats, il y a des trucs, c'est le bordel, quoi.
En gros, le film à la base, c'est un Netflix Originals.
Okay.
Genre le Dev, il fait son film, il le montre à Netflix, et Netflix fait, ça va pas être possible en fait, Dev, tu comprends.
Tu vois bien que là t'es censé avoir un plâtre, t'as l'œil rouge.
Voilà. T'arrives faut l'imaginer complètement éclopé, il est au bout de sa vie, tu vois.
Il arrive comme ça, il boit, il fait voilà.
Non. Alors pourquoi ils disent non? Eh ben, si vous faites attention, il y a eu deux bandes annonces de Monkey Man qui sont sorties.
Ok.
La première sous l'égérie Netflix et la deuxième sous l'égérie de le distributeur dont on parlera juste après. Et il y a une différence notable, c'est que dans la première bande annonce, il y a le drapeau du parti nationaliste hindou qui est donc actuellement au pouvoir, et dans l'autre bande annonce, on a un drapeau du parti communiste. Alors pourquoi ces changements? Parce que Netflix a estimé que ce serait trop problématique,
risqué,
que ça pourrait créer une polémique, d'avoir le drapeau du parti indien, qui est très conservateur et tout ça, et donc il y a une critique dans le film, a priori, on l'a pas vu, mais a priori il y a une critique là-dessus.
Ce qu'on précise, c'est qu'on n'a pas du tout le temps de voir le film, et qu'on a tous envie de le voir.
Et aussi quelque chose, je suis pas du tout expert de la politique indienne, donc je vais pas aller trop loin, pour éviter de dire des bêtises que je regretterai plus tard. Donc simplement, Netflix a eu peur de créer une polémique, puisque évidemment que le film est aussi destiné au public indien, qui est très nombreux, donc qui peut potentiellement être de nouveaux abonnés et tout ça, donc enfin, ce serait un vrai risque financier à leurs yeux d'avoir un film qui puisse critiquer ça.
Et de se brouiller aussi avec la politique indienne, hein, parce que faut rappeler que Netflix est dépendant de, enfin, les plateformes en général sont très dépendantes des lois dans différents pays. Tu vois, en France, les plateformes ont dû se plier à la chronologie des médias, même si elles ont bien cassé les couilles et qu'elles ont fait
et
vraiment
à la production française, puisqu'il y a un minimum de production.
Exactement,
France,
exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des films Disney Plus originaux français avec Eric Judor, etc. Mm. C'est une obligation qu'ils ont pour s'implanter en France. Donc ouais, se brouiller avec la politique d'un pays, c'est risqué de fou.
C'est très très risqué. Et donc, bah au final, donc ils ont décidé de rejeter le film complètement. Sauf que du coup, il y a un certain Jordan Peele qui rentre dans l'équation.
Ah. Lui, il a l'œil, lui.
Qui, lui, va voir le film et va adorer le film. Et donc, il va faire une sorte de pressing à Universal.
Alors, juste, c'est qui Jordan Peele pour les gens qui le connaissent pas?
C'est tout simplement
le
GOAT.
C'est le crâne chez sa génération.
C'est le réalisateur
de Get Out, de Us, de Nope récemment. Ouais, voilà. Et qui est aussi devenu, qui commence à devenir aussi un producteur assez costaud, notamment dans le monde de l'horreur.
Il a relancé la quatrième dimension.
Oui, il a relancé la série La Quatrième Dimension. Et avant, il était aussi connu pour Key & Peele, un duo de comiques.
Ouais, exact.
C'est très bien d'ailleurs.
Il a une carrière bien fournie, quoi.
Carrément. Il en a fait des choses. Et des choses très bien en plus.
Moi j'adore ces trois films. Ces trois réels, elles sont trop bien.
Carrément, carrément. Et donc, en fait, Universal décide de reprendre le film. Et donc dans la deuxième bande-annonce de Universal, du coup, on voit que c'est un autre drapeau qui, parce qu'ils ont affaire à la même problématique, ils ont trouvé le film très bien, ils ont dit on veut pas non plus se brouiller avec le parti indien. Donc, ils mettent un drapeau du parti communiste parce que, a priori, c'est plus ok pour eux.
Okay.
Enfin, moins risqué en termes de polémique, visiblement.
Ouais. Ils sont pas au pouvoir, donc ça doit peut-être être un peu plus simple.
Ouais, c'est on a dit, si tu veux critiquer quelque chose et ne pas le montrer, c'est quand même compliqué, c'est...
Mais de toute façon, les bandes annonces sont sorties. Et aussi, du coup, il y a quand même une polémique sur Internet et sur Twitter. Ouais. Beaucoup de gens ont parlé de la différence dans les bandes annonces et tout ça. Donc, je pense que vous trouverez plein de ressources sur l'histoire politique de l'Inde et pourquoi il y a ces polémiques-là. Mais au final, je crois que le film va plutôt bien se passer a priori, puisque lors de sa première projo à South by Southwest.
Vraiment trop chiant à dire le nom de ce festival.
SBSX, voilà.
South by Southwest. Mais ça, c'est la prononciation française. La prononciation anglaise, c'est un autre délire.
Voilà. Qui est un hommage à un film d'Hitchcock qui s'appelle North by Northwest.
Ouais. Et donc, il y a un festival qui se penche.
La mort aux trousses en français. En français, ouais.
Et donc, c'est un festival qui se penche énormément sur les cultures underground et tout ça. Pas forcément que sur le cinéma, mais un petit peu sur toutes les cultures alternatives.
Ouais,
Standing Ovation, pardon. Tout le monde a adoré le film. Dave en a pleuré. D'émotion, quoi.
Ouais, parce qu'il y a un truc où tu t'es tellement donné sur un film où il y avait pas un rond et où ça se battait pour avoir le moindre truc que je pense que quand t'arrives à ce stade-là et que le film plaît, ouais, fatalement.
Carrément, tu vois. Et puis c'est aussi avec cette approbation qui s'est dit aussi qu'il pouvait raconter beaucoup de choses autour du film aussi, tu vois, parce que on pourrait se trouver ça étonnant que quelqu'un pleure autant à ce moment-là d'émotion face à une standing ovation, parce que ça a été vraiment difficile, quoi. Donc
oui, surtout qu'il faut pas qu'il arrête la mise en scène parce que visiblement le film est cool, donc ce serait dommage que le mec s'arrête en si bon chemin, et il a l'air intéressant, ce mec.
Carrément. Et puis même si on a un regard un peu plus cynique, Universal a fait un très bon deal en reprenant Monkey Man parce qu'il était déjà rentable au bout de 3 jours de diffusion sur le territoire américain.
Ok, d'accord.
Donc rien que ça, c'est cool pour lui, tu vois,
Et les critiques sont très bonnes.
Et les critiques sont plutôt positives a priori, carrément. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait un petit peu au début. C'est que souvent, dans plein de films, les galères de production, elles sont racontées a posteriori, bien plus tard, quand les langues se dénient un peu, que le temps est passé et que les inimitiés disparaissent un peu.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, là, d'un coup, elles arrivent hyper tôt dans la promotion du film et tout ça, c'est assez étonnant. Et moi, je sais pas votre avis, on pourra en parler ensemble avec aussi vous, le chat, mais du fait de... Est-ce que la grève récemment à Hollywood pousse aussi à expliquer quand une production se passe mal, pour quelles raisons elle se passe mal, est-ce que y a une libération de la parole qui se fait aussi par rapport à ça, parce qu'en termes de chronologie, temporalité, ça pourrait un peu coller. Je sais pas.
Bah, t'as peut-être raison, c'est peut-être aussi tombé à ce moment-là où il y a eu un ras-le-bol et les gens avaient besoin de gueuler aussi à un moment donné, et ça a peut-être aidé à ce que ça se fasse.
Ça, et ça crée aussi un narratif au film, hein, d'un point de vue marketing, c'est pas une idée idiote de dire voilà, le film on en a chié, moi je me suis pété tel orteil, telle déchirure de l'épaule, t'as dit, je sais plus.
Ouais, mais le fait de dire Netflix nous a lâché, est-ce que c'est vraiment une bonne chose aussi, juste si t'es d'un point de vue purement carriériste, tu vois, pour Dev, du coup il se ferme les portes de Netflix, tu vois.
Ouais.
Donc en fait, est-ce que ça vaut...
Pas certain, hein, parce que si le film a une bonne exploitation, Netflix s'intéressera à nouveau à lui. Il y a Mister HS sur Twitch qui nous dit « J'ai vu le film et pour le coup, malgré tous ces problèmes, On ne les remarque absolument pas. Ça fait pas du tout production fauchée.
Okay.
Et déjà que je trouvais le Real incroyable, la Real incroyable, maintenant que je sais tout ce bordel, c'est encore plus impressionnant.
Et bah, trop bien.
Surtout que pour un premier film, et je crois qu'il fait un vrai succès, mérité en salle. C'est donc super pour Dev Patel et pour toute l'équipe. Donc voilà encore un avis ouais. positif. On va courir le voir au cinéma.
Ouais, ouais, ouais carrément. Cette semaine, on va aller voir ça.
Ouais. Et puis voilà, tout simplement, c'était la fin de cette petite chronique. Oui.
Merci mec, c'est incroyable.
C'est trop cool.
Il y a 12 000 trucs là, 12 000 infos, c'est incroyable.
Il y a plein de choses, ouais, carrément.
Et du coup, cette semaine est sorti
un autre film qui lui aussi a été diffusé à South by South,
Avec Nico, il y a un mois, on a été invité en projection presse pour aller le voir. Ouais.
On a fait partie des tout premiers à voir le film, c'était génial. Très très cool. On l'a vu dans des conditions excellentes parce que on était dans une salle en Dolby Atmos et on parle bien sûr de
Civil War de Alex Garland.
Ouais. Et c'est à moi de
dérouler. Vas-y Nico, je t'en prie.
Faut que je retrouve mes notes.
Alex Garland un réalisateur qu'on aime bien.
Un réalisateur qu'on aime beaucoup qui a fait Ex Machina, Men et scénariste de plusieurs films de Danny Boyle, notamment de Sunshine et de 28 jours plus tard.
Qui sont des bons films.
Et il a fait aussi 28 semaines plus tard, même si c'est pas Danny Boyle. Enfin, Danny Boyle a tourné la scène d'intro, a réalisé la scène d'intro de 28 semaines plus tard. Mais il a continué là-dessus et il sera scénariste pour 28 ans plus tard.
Non, pour l'instant, il n'y a pas de titre et c'est une nouvelle trilogie et normalement, oui, ce sera.
Mais il sera scénariste
sur. Ce sera effectivement lui et la trilogie sera lancée par Danny Boyle. C'est Danny Boyle qui va réaliser le premier opus de cette nouvelle trilogie 28 jours plus tard. Civil War, c'est donc un film de Alex Garland, la personne dont on vient de parler, le réalisateur dont on vient de parler, qui est une production A24. Donc les films A24, ils sont toujours assez attendus. Il y a toujours un assez bon marketing, même si on va revenir un peu plus tard sur quelques petits aspects un peu problématiques du marketing, en tout cas qui font beaucoup parler. Et c'est un film d'anticipation, dystopique action qui prend le postulat qu'il y a une nouvelle guerre civile aux États-Unis avec deux États qui sont des États séparatistes, qui
sécessionnistes,
et qui décident de s'extraire de la politique du nouveau président qui a tiré sur sa population et donc qui a créé une vraie scission dans le pays. En fait, c'est un putain de film de ouf.
Bah, nous, on était sur le cul, juste pour remettre dans un contexte. On s'est retrouvé avec Nicolas, allé le voir du coup à 9h du matin.
Ouais.
Et lui, comme moi, pour le travail, on avait fait nuit blanche.
Donc on était bien fatigués ce matin.
Donc on était très fatigués. Et il n'y en a pas un qui a rompi.
Ouais.
Et on était tout le long du film cramponnés au fauteuil. C'est un film que, évidemment, on conseille énormément.
Ouais.
On va en discuter un peu plus. Bien sûr, on va pas spoiler quoi que ce soit du film, et surtout que c'est compliqué parce que le film est très dense.
Ouais, c'est
il y a beaucoup,
dense.
Beaucoup de choses. Et ouais, non, toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi, j'ai vraiment reçu le film comme un. Donc, déjà, en vrai, est-ce que vous avez envie de le voir?
J'ai très envie de le voir.
La bande-annonce est tentante. L'attaché de presse, Zvi, nous a envoyé des extraits.
Ouais.
Et donc, pareil, les extraits sont scotchants. Donc, il y a l'air d'y avoir une ambiance assez incroyable dans ce film. Donc, ouais, c'est bon. Ça n'a pas l'air drôle.
Ça n'est pas tant que ça. Et Bernard, t'allais dire un truc.
Ouais, je suis carrément chaud à le voir. Moi, j'avais adoré Ex Machina. C'est la seule chose vraiment que j'ai vu de lui en réal. Mais j'ai vraiment adoré ce qu'il avait fait. Je trouve le ton du film super et la réal est vraiment trop cool, quoi. Donc, moi, je suis grave chaud pour le voir. Surtout quand vous m'en avez parlé un petit peu. Je dis, ok, trop bien si c'est aussi mortel que le reste. On y va, quoi.
Et son dernier film qui était Men, juste avant, qui était aussi en partenariat avec A24.
Produit par A24.
Produit par A24, où ils avaient pris Men. Et il avait fait Annihilation aussi.
Annihilation, ouais, qui était sorti chez nous sur Netflix avec Natalie Portman. Et on a ce cadre-là de cette guerre de sécession, cette nouvelle guerre de sécession aux États-Unis, et en fait on suit des journalistes, un groupe de journalistes qui a une mission dont on va pas vraiment vous révéler la nature.
Bon, en même temps c'est dit dès les 30,
c'est dit dès le début. Mais c'est peu importe, on vous laisse suivre ça. Donc on va suivre ces journalistes en mission qui vont leur but c'est d'aller à un endroit, et donc c'est un road trip à travers cette Amérique fracturée. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est une tension viscérale. Je n'ai jamais, je crois, en tout cas récemment, autant serré les fesses devant des scènes de tension d'un film.
Okay.
Je vous jure, il y a des scènes, une des scènes dont on voit les images, qui sont mais stressantes, mais au max, quoi. C'est vraiment angoissant de fou.
Moi, je rejoins Nicolas là-dessus, c'est qu'il y a une vraie maîtrise en termes de rythme. C'est-à-dire que le film peut autant se poser, laisser le temps de faire évoluer leurs personnages et tout, et partir sur 20 minutes effrénées de tension qui vraiment te scotche de A à Z, notamment avec la mise en scène aussi qui est très très bien maîtrisée. Mais en termes de rythme, il n'y a aucun moment où tu t'emmerdes, il n'y a aucun moment inutile. Le film est court, il dure 1h40.
C'est incroyable, parce que c'est pas du tout la tendance. Hein.
C'est pas du tout la tendance, et justement, ouais. Ça fait du bien parce que il sait ce qu'il avait à mettre dans son film. Il l'a mis. Il a dit, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Mmh. Et tu le ressens qu'il a eu la maîtrise de ce truc-là. Et c'est chouette de voir un film d'une heure 40 qui est maîtrisé de A à Z.
Et moi, il y a un truc, c'est que, alors, le film a un propos, et c'est vraiment assez dense, d'ailleurs, dans son propos. Et évidemment, il fait polémique parce que, bah, il parle de l'Amérique actuelle, même, en fait, de ce qui se passe dans plein de pays du monde, une espèce de scission politique très forte entre différentes parties de la population. Mais avant de parler de ça, j'aimerais vraiment qu'on revienne juste sur un truc tout basique. La grammaire cinématographique dans ce film, elle est maîtrisée de fou furieux, quoi. Vraiment, sans parler du propos, le mec sait comment faire de l'attention, il sait comment diriger ses comédiens, il sait que, comment cadrer, comment... Enfin, il y a vraiment une maîtrise de tout ça, et on pourrait juger effectivement certains personnages et certaines situations un peu caricaturales, hein. Il y a, même dans l'abondance, on le voit, un espèce de trumpiste raciste, énervé, qui est prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Mais en fait, peu importe, vraiment, la qualité du jeu des comédiens est tellement... incroyable, on pense à Kirsten Dunst.
Kirsten Dunst, oui, on a
franchement pète l'écran. Ça, j'ai pas vu Mélancolia, d'ailleurs, je l'ai acheté en Blu-ray cet après-midi, Mélancolia. on était ensemble à Avignon. Mais j'ai pas vu Mélancolia, mais j'ai jamais vu Kirsten Dunst autant bouffer l'écran, quoi. Elle a une présence, elle a un personnage qui est extrêmement fort et puissant dans le film, et les valeurs que son personnage véhicule sont aussi passionnantes. Et pour aller un petit peu plus dans le propos du film, c'est franchement difficile d'en discuter comme ça à froid. En plus, on l'a vu il y a un mois et demi.
Ça fait un mois. Nous, on aimerait beaucoup le revoir.
Et voilà. En fait, moi, j'aurais vraiment aimé le revoir. Bon, on était au Festival Frames toute la semaine, et donc on n'a pas pu trouver le temps de revoir le film. Mais je pense que c'est un film qui, enfin, moi, j'ai grave envie de le revoir, quoi. Alors que on l'a vu il y a à peine un mois.
Et est-ce qu'on sait dans le film ce qui a déclenché la guerre civile?
Et bah justement,
pas vraiment,
en fait, si,
c'est pas tellement abordé.
D'ailleurs, il l'explique en interview, en fait, mais il s'intéresse pas tellement à ce contexte politique. Je pense que Alex Garland est vraiment intéressé par, il l'a même dit en interview, il est vraiment intéressé par les problèmes qu'il y a actuellement aux États-Unis et en Angleterre, parce qu'on le rappelle, en fait, il est anglais, ce mec, hein, il est pas américain, et pourtant il fait un film sur la guerre de sécession américaine, enfin sur une nouvelle guerre de sécession américaine.
Alors, dire que les Anglais ont fait sécession avec l'Europe. Hein.
Oui, oui, oui. Et les États-Unis ont fait sécession avec l'Angleterre à une certaine partie de leur histoire.
Ouais.
Il y a longtemps. Mais donc, ouais, à mon avis, il s'intéresse vraiment profondément à ce sujet-là. Et ça l'inquiète. À mon avis, ça l'inquiète vraiment. Il ferait pas un film là-dessus non plus si ça l'intéressait pas. Mais je pense que il se sert de ce contexte social, de ce contexte presque de science-fiction avec cette guerre dans le pays, pour nous parler en fait de journalisme. Le film ne parle que de journalisme de terrain, de reporter de guerre, de photographe
là,
de guerre.
Et là où il y a un peu de fraîcheur, c'est que le parti pris de choisir la temporalité. Le moment où se déroule toute l'action du film, c'est le moment où ça s'apprête à péter. C'est les quelques derniers jours avant que vraiment il y ait, sans trop spoiler, que ça pète vraiment. Et là où beaucoup, beaucoup d'autres films qui voulaient faire de l'anticipation, action, thriller et tout, prendraient après ou alors avant, lui prend le parti pris de dire non, on va prendre le moment où ça arrive, et c'est assez intéressant. Moi, je trouve que ça ramène un vent de fraîcheur.
Et donc, en fait, il se sert à mon avis, de ce cadre pour nous raconter une histoire de road trip en terre hostile qui est vraiment captivante. Mais ouais, donc pour parler de journalisme de terrain, quoi. Et c'est vraiment un film sur le journalisme, sur le point de vue, sur l'importance de l'information. Et c'est un film qui se pose plein de questions autour de ces thématiques-là.
Et ça transparaît par la mise en scène aussi. Ouais. Toujours, le film est tout le temps à échelle humaine.
Ok.
C'est-à-dire que tu ne décroches jamais des personnages. Et ça aide déjà, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure. Ça aide à ce que tu sois à fond dans l'histoire avec eux et que tu puisses t'attacher et voir aussi à échelle humaine ce qui se passe quand il y a une guerre civile.
Par exemple, il suit jamais des grands conflits. Il les filme soit de loin parce que les personnages sont en train de fumer une clope dans une voiture et qu'ils voient le conflit qui est en train d'arriver au loin.
Voire même ils l'entendent.
Ils l'entendent. On voit des espèces de tirs dans les airs, mais on n'y est pas quoi. On suit ces personnages qui sont très très proches, ce qui donne une sensation de réalisme mais qui est incroyable.
Et même dans l'action. Dans l'action, on est en caméra embarquée, comme si t'avais un journaliste qui était, enfin comme si t'étais journaliste et que tu suivais le bordel avec les explosions à droite, à gauche.
Et je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a une scène où nos personnages voient des militaires quitter un camp de militaires. Une base militaire et pareil, on s'intéresse pas du tout aux militaires, on s'intéresse aux personnages qui sont à côté des voitures, ceux qui montent dans une voiture, comment ils vont retrouver d'autres personnages dans des tentes, mais on suit pas vraiment ce gros conflit de cette manière-là, on le suit vraiment profondément à échelle humaine. Et à mon avis, c'est là où un film comme ça, c'est super intéressant d'en faire un film justement, pas d'en faire un bouquin, en fait. En fait, c'est une histoire que tu ressens, que tu vis un petit peu comme, et la comparaison est affreuse, mais un petit peu comme quand tu vas à Disneyland. T'as besoin de l'expérimenter de cette manière-là parce que t'as les décors autour de toi, etc. Et là, le montrer, nous le faire entendre, parce que le sound design est incroyable, on l'a vu en Dolby Atmos. Ouais. Le sound design est fou. Ça rend vraiment l'expérience cinématographique nécessaire pour raconter ce film-là. Surtout que le film parle beaucoup d'images, vu qu'il s'agit de photographie. Donc je trouve vraiment que c'est une œuvre qui ressemble à rien d'autre, qui est vraiment extrêmement bien faite et extrêmement maîtrisée. Et surtout, qui ressemble à rien, quoi. Franchement, foncez le voir. Vous avez jamais vu ce film, quoi. C'est clair
et
net.
Et ce qui fait plaisir, c'est que le film fait pas mal parler de lui.
Ouais.
Notamment aux States, parce qu'il sort l'année où il y a des élections américaines qui se font en novembre.
Ouais, tiens.
Voilà, contexte.
Ouais, je pense que c'est pas tendu.
Bien sûr. Mais je trouve ça chouette que le film fasse beaucoup parler de lui.
Et juste pour rajouter de petites choses, t'as Alex Garland qui s'est exprimé sur sa carrière à lui lors d'une interview pour The Guardian au moment de la sortie du film, et qui nous explique que lui, il a envie de se séparer un petit peu de pas du monde du cinéma, mais de la mise en scène, de la réalisation. Il en a ras le cul, hein, visiblement. Il a plus envie de retourner à l'écriture. Alors c'est déjà un truc qu'il nous avait dit dans... lors de la sortie de son précédent film Men, mais là visiblement ça a l'air d'être assez concret dans sa tête. Il en a marre de réaliser des films, mais comme on l'a dit, il réalise la nouvelle trilogie 28 jours plus tard il scénarise la nouvelle trilogie 28 jours plus tard. Donc en gros, il nous fait pas une Tarantino, quoi. Il nous dit pas je vais arrêter le cinéma et foreshadowing pour le reste de l'émission.
Transition.
Il est très fort,
J'ai un petit mot à rajouter parce que on en a parlé.
Ouais, bien sûr, ouais.
Off, c'est pas une idée nouvelle, cette idée de seconde Civil War, de nouvelle guerre civile aux États-Unis, puisque notre ami Joe Dante connu évidemment pour les Gremlins et d'autres excellents films comme L'Aventure intérieure ou Panique sur Florida Beach, a fait un film produit, alors je crois que c'était de la production HBO, c'est ça, production HBO en 1997, qui s'appelle un téléfilm, mais qui a l'aspect d'un film, réellement, qui s'appelle The Second Civil War, et alors qui part d'un principe qui est extrêmement moderne, puisque à la suite d'une guerre nucléaire qui arrive entre l'Inde et le Pakistan, c'est que ces deux pays qui sont équipés de l'arme nucléaire. Les Indiens et les Pakistanais ont dû fuir leur pays qui est plus vivable, et chaque pays du globe récupère une partie des réfugiés. Alors, on sait qu'ils sont des milliards, qu'ils sont un milliard en Inde, et donc les États-Unis doivent récupérer un quota de réfugiés. Et là, d'un seul coup, le gouverneur de l'Idaho qui décide de fermer ses frontières et de faire sécession parce qu'il, lui, veut pas, il a déjà assez de problèmes, il veut pas des réfugiés de cette guerre nucléaire à l'autre bout de la planète. Et évidemment, ça va entraîner des tas de conséquences fâcheuses. Alors, le film raconte vraiment l'histoire d'une guerre civile aux États-Unis, quand même sous l'œil un peu de l'humour. parce que c'est Joe Dante, un humour un peu grinçant, et aussi c'est parce que c'est le scénariste Martin Burke qui avait écrit un film comme Top Secret pour les frères du Caire. Donc voilà, c'est quand même une comédie politique. Mais alors, si vous pouvez tomber dessus, je vous la recommande. Alors,
c'est le film le moins connu de Joe Dante.
C'est le moins connu.
Mais vraiment, c'est le tout dernier.
Sauf les tout derniers.
Ah, franchement, je crois que The Second Civil War est le moins connu. Si tu vas sur Letterboxd, c'est vraiment celui qui est tout en dessous.
Ouais. Et c'est dommage parce que c'est comme d'habitude, c'est du Joe Dante.
Ouais.
Donc c'est extrêmement bien ficelé. Et alors, il y a
un casting de malade.
Voilà, il y a le casting de malade. Alors, il y a ses habituels. Parce que Joe Dante, il a ses copains. Donc, il y a le fameux Dick Miller, qu'on voit dans absolument tous ses films, ou Robert Picardo, qui sont excellents. Mais il y a aussi, par exemple, il y a le vétéran Rance Howard, qui n'est autre que le père de Ron Howard.
Okay.
Qui lui ressemble d'ailleurs, mais enfin, qui est bien plus âgé. Mais il y a Beau Bridges, le frère de Jeff Bridges, qui a le rôle titre. Il y a Joanna Cassidy, il y a Phil Hartman. Hartman, malheureusement décédé après le tournage de Small Soldier, aussi de Joe Dante, qui s'est fait assassiner par sa femme, une très sombre histoire. Phil Hartman était un acteur incroyable.
C'est celui qui fait la voix de Troy McClure dans Les Simpsons.
Je crois bien, ouais. Et il vient de Saturday Night Live, Phil Hartman. Il y a James Earl Jones, il y a James Coburn, il y a Ron Perlman qui est génial. Enfin voilà, il y a toute une série d'acteurs. Franchement, si vous avez l'opportunité de voir Second Civil War, qui est un film aussi qui tourne beaucoup autour du journalisme et de
la police
de CNN, d'émissions à la CNN, genre de truc. Bon, mais évidemment, c'est pas du tout le même type de réal que le Civil War dont t'as parlé. C'est évidemment beaucoup plus sage, on va dire. Mais quand même, le film est très drôle, très intéressant et qui garde un sujet vachement actuel sur le rejet de l'immigration, sur le rejet, sur le fait de rejeter sur les migrants tous les problèmes du pays, et sur les tensions au sein des États-Unis qui restent toujours existantes sur cet agglomérat d'États qui, finalement, a chacun sa loi, ses spécificités. On a beaucoup parlé des lois anti-avortement d'un certain nombre d'États républicains. Voilà. Donc,
justement,
on retrouve ça vraiment bien montré dans le film de Dante, et j'imagine aussi dans Civil War.
Ce qui est marrant, c'est que Alex Garland, justement, je pense que c'est dans un souci de froisser personne, surtout qu'on est dans une période d'élection, et donc pour ne pas être trop polémique, lui, ce qu'il dit dans son film, c'est que c'est le Texas et la Californie qui sont alliés contre le président qui a des dérives fascistes, donc en fait on sait que c'est deux États qui n'ont rien à voir politiquement, parce qu'on en a un qui est beaucoup plus libéral, donc qui est plus à gauche, même si c'est un peu difficile de parler de gauche aux États-Unis, et le Texas qui est un État très 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 à droite, et là pour le coup on peut parler de droite droite bien vénère.
Texas, Floride, bien à droite.
Et donc c'est intéressant comme sujet parce que lui, ce qu'il dit, sa manière de justifier le truc, c'est qu'en fait face au fascisme, même deux États qui ont des politiques très très différentes seraient prêts potentiellement à s'allier et à combattre ce qui est un danger pour la démocratie. Bon, je sais pas si c'est tout à fait vrai, si c'est tout à fait vérifiable, mais et à mon avis, ça a été fait dans un souci de ne pas froisser le public américain qui est un petit peu
dit, pour être allé aux États-Unis il y a encore pas longtemps, c'est quand même un pays incroyable de contraste, mais quand même aussi d'accueil et de d'esprit démocratique. Enfin, on a le prisme de l'Europe, des États-Unis à la Trump, qui sont une frange de l'Amérique qui est extrêmement détestable. Mais en fait, dans l'ensemble, l'Amérique est un pays, les Américains, et l'Amérique est un pays très accueillant, est un pays très agréable. Moi, j'ai toujours eu des expériences géniales aux États-Unis. Donc, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le Trumpisme, c'est pas beau. On espère qu'il passera pas aux prochaines élections, mais c'est mal barré. Mais en même temps, voilà, on a déjà eu 4 ans de Trump. Ça a pas changé tant de choses que ça. Enfin, en tout cas, les Américains ont pas changé, quoi. Ils ont changé après 2001. En fait, après le 11 septembre, il y a vraiment eu un choc très très profond. D'ailleurs, les films de Greengrass et toute cette époque montrent très bien comment les États-Unis sont transformés et sont devenus un pays très différent de ce qu'ils étaient dans les années 80 et les années 70. Mais n'empêche que Civil War, ça reste une fiction. Ouais. Sûrement très impressionnante. J'ai vraiment très envie de le voir. Mais les États-Unis, allez-y, c'est un pays accueillant quand même. Puis il y a des parcs d'attractions qui sont sympas.
Et oui, c'est vraiment un film très très immersif. Et dernier petit point sur Civil War, même si je commence à m'éterniser, mais hier, il y a eu une nouvelle polémique autour du film, c'est que A24, je ne sais pas pour quelle raison, a sorti des nouvelles affiches. Donc je sais pas si en régie vous pouvez les trouver. C'est vraiment des affiches, c'est pas l'affiche classique du film, hein, c'est des nouvelles affiches, il doit y en avoir 4, 5, un truc comme ça, qui ont été faites avec de l'IA. Et ça a fait un gros scandale sur les réseaux sociaux, surtout qu'il y en a qui ont pas beaucoup de sens. On se demande vraiment pourquoi ils y sont allés par là. Okay. Peut-être qu'ils avaient envie de tâter le terrain, voir est-ce qu'on va se faire taper dessus ou pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas eu de communiqué. A24 a toujours pas communiqué autour de ce sujet-là. Et surtout qu'ils les ont déjà, les affiches du film. Pourquoi en faire des nouvelles? Ils ont fait des affiches personnages, ils ont fait des posters 3D et tout. Il y a vraiment toute une stratégie de communication avec plein de visuels et de choses différentes. Je ne comprends pas pourquoi ils sont allés du côté de l'IA. Je sais pas si c'est une très bonne idée, franchement. A24, vous avez les thunes pour payer des artistes, quoi, des dessinateurs, des photoshoppers, des ce que vous voulez. Y a pas besoin d'aller de ce côté-là, mais bref, je sais pas ce que vous en pensez, si c'est une bonne chose ou pas.
C'est clair que c'est pas les distributeurs les moins pauvres de l'industrie en ce moment. C'est vraiment, ils ont une hype de fou qui fait qu'ils peuvent clairement avoir de l'argent pour payer des artistes. Surtout qu'ils ont cette image, en plus, assez autorisante de vouloir mettre les artistes en avant. Et de mettre de l'IA, ça casse complètement leur image, en fait.
C'est trop bizarre.
C'est assez aberrant, quoi.
C'est pas du tout celle-là.
celle-là pour le coup c'est l'affiche classique.
C'est une des affiches classiques, ouais, il y en a deux, il y a celle-ci et celle où on voit la Statue de la Liberté de loin.
Mais c'est vraiment étonnant quand même.
Non mais on les mettra au montage de la vidéo sur YouTube. Et raison de plus pour aller s'abonner sur le YouTube de Caméflex.
Merci Nicolas.
Merci à vous et
merci à Michael Rock sur Twitch, qui vient de faire un raid.
Merci
pour ton raid.
Merci beaucoup pour ton raid.
Coucou le raid. Les gars, on va passer à l'actu en rapidos, l'actu de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'audiovisuel, dans le monde du cinéma?
Tellement de choses.
Donc, l'histoire d'avoir vos avis à chaud en rapidos.
Allez.
Qu'est-ce que tu fais?
Je casse tout. <toi. rire>
Première actu, Martin Scorsese serait en train de se pencher sur un biopic et pas n'importe lequel, puisque ce serait sur la vie de Sinatra, avec Leonardo DiCaprio en rôle vedette et Jennifer Lawrence qui interpréterait la deuxième femme de Sinatra. Arrête de toucher. Arrête. La deuxième femme de Sinatra, donc Ava Gardner. Alors pour l'instant, Sony serait intéressé et ce serait plutôt eux qui seraient sur la production.
Okay.
Mais faut savoir que la fille de Sinatra, Tina Turner, elle possède les droits de succession de son papa et de toute façon tant qu'elle aura pas signé quelque chose,
il se passera absolument rien.
Est-ce que c'est un film qui vous tenterait? Est-ce que c'est un sujet qui vous chaufferait pour un film
Pour Scorsese? Pourquoi pas? Parce que c'est Scorsese, évidemment. Donc, ce qui fait que, fatalement, je suis très chaud, évidemment. Après, je sais pas si c'est très bizarre comme annonce, du coup, c'est très précipité. Enfin, est-ce que c'est pour mettre un coup dans l'eau de com pour essayer de voir, de jauger la hype des
gens?
Ouais,
peut-être.
Pour avoir un.
Surtout qu'il va tourner un autre film en parallèle un film sur Jésus.
Dont ils ont parlé déjà.
Mais il a déjà fait ça.
Ouais. Oui, bon. Mais il le refait une deuxième fois.
Non, parce qu'il
avec DiCaprio en Jésus?
Non.
Merde.
Mais je suis d'accord, c'est un peu bizarre. Ils ont pas les droits et ils annoncent déjà un casting potentiel et
non mais c'est toujours pareil.
Et surtout
ça sent un peu le truc fait à l'IA, ça, justement. Non mais je veux dire vas-y, tu prends des dés avec marqué DiCaprio, Tarantino, Scorsese.
Tu
lances le truc et puis dessus t'as un sujet. Bah, Sinatra, c'est vrai que c'est un biopic qui a pas été encore fait. Il y a eu Elvis il y a pas longtemps.
Pour lire avec le milieu mafieux.
Ouais, c'est ça, Scorsese, c'est qu'est-ce que j'ai pas fait dans
ça a du sens,
qu'on
a
pas
fait.
Qu'est-ce qu'on a pas. Oui, ça a du sens, mais maintenant voilà, les biopics sur les chanteurs surtout que Sinatra c'est un peu sulfureux avec l'époque Crack Pack, donc voilà, voyons ce qu'il en
avec Scorsese à la barre, à mon avis on n'aura pas Bohemian Rhapsody, quoi. Ce sera un peu
très bien Bohemian Rhapsody.
Non, OK, d'accord.
Pas vraiment.
C'est ironique. Oui.
Non, moi j'aime bien.
Non, moi j'aime bien.
Non, mais c'est pas parce que c'est autorisé, c'est aussi parce que Rami Malek est incroyable. Il est incroyable, Freddy.
Moi, j'aime pas du tout. J'ai vraiment beaucoup de mal avec Rami Malek. Moi.
Ben, moi, je l'ai vu à l'époque. J'ai eu l'impression de revoir Freddy. Non, il est pas mal. Il est pas mal. Ah, moi, j'ai préféré l'autre biopic du même réalisateur qui n'était pas crédité sur Rocketman. Qui, pour le coup, était un
chouette. Bien meilleur film.
Non, moi, j'adore Rocketman.
Mais bon, j'ai vu à ma décharge, j'ai vu le film sur Queen. Je l'ai vu dans d'excellentes conditions. En Angleterre, dans une des salles premium qui sont des salles à l'ancienne, avec des petites tables, des sièges en cuir et tout. Donc j'étais avec ma femme et c'était.
T'étais déjà conquis avant que le film
commence. Voilà, j'étais conquis. Ouais. J'étais sur place, quoi. Donc,
Scorsese et Sinatra et DiCaprio, bah s'ils ont les droits, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Moi, je trouve que ça peut être sympa.
Allez, on vote tour.
Ah oui. Toute petite chose à dire, rapidos. Bon, déjà, si la fille de Sinatra est aussi regardante sur le film, est-ce qu'on aura le droit à un portrait honnête de Sinatra?
C'est le problème.
Ça, c'est le problème. Comme ce qu'il y avait avec Bohemian Rhapsody, où le film est complètement mensonger sur des tas de choses. Ouais. On va pas revenir dessus. Et deuxième chose, en fait, le fait que il parle à la fois de ce projet de Sinatra et ce projet de Jésus, enfin sur le film de Jésus, ça me fait penser à une interview qu'il a fait il y a pas longtemps, où en fait il raconte que plus le temps passe et plus il vieillit et plus il sent la mort venir vers lui, plus il a une boulimie de cinéma et de vouloir créer des choses. En fait, tant qu'il est encore là, il se rend compte de la chance qu'il a d'être encore là aujourd'hui.
Et de la chance qu'on a de qu'il soit encore
carrément, tu vois. Mais genre, en fait, il se dit, il est dans une boulimie de vouloir faire du cinéma à tout prix tant qu'il en a encore temps. Et en fait, cette double proposition, en fait, elle est pas si déconnante si tu la remets en perspective de cette interview et de ce témoignage-là, quoi.
Et de là où il en est dans sa carrière.
Et on le voit en ce moment, il est sur Twitch, il est sur toutes les pubs de Twitch.
Il a réalisé la pub pour Scorsese, c'est pour ça qu'il est dedans. À mon avis, il a pris son chèque.
Oui, mais c'était pas sa première pub. J'avais adoré la pub qu'il avait fait pour American Express.
Ah oui.
Où il a photographié l'anniversaire de son.
Ouais, c'est ça. Il arrive dans la boutique.
Boutique et il regarde des photos. Oh putain, mal cadré. Qu'est-ce que c'est que cet éclairage? Et il appelle son petit-fils. Il dit, est-ce que ça te dirait de refaire ton anniversaire? essaie de trouver cette pub American Express sur YouTube. Ouais. Elle est super drôle. Elle est très très bien. Ouais.
On la mettra sur YouTube.
Allez vous abonner à la semaine.
Deuxième info de la semaine. La Palme d'honneur au Festival de Cannes 2024 sera pour la première fois non pas décernée à un individu mais bel et bien un collectif. Le studio Ghibli. Qui va recevoir du coup la Palme d'honneur.
Okay.
Voilà, on rappelle que Le Garçon et le Héron, qui est la dernière production Ghibli et Miyazaki, qui était sortie fin 2023, a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation et a cartonné chez nous aussi.
Ce qui est vraiment pas mérité et en même temps mérité. C'est-à-dire que je pense qu'ils se sont rattrapés des 40 ans où ils ont raté Miyazaki. Et donc, il fallait bien... Bon, tiens, il a encore fait un film. Vite, donnons-lui l'Oscar sinon, on risque de rater le coche. Ouais. Et c'est dommage que ce soit pour Le Garçon et les Hérons qui, clairement, en dessous pour moi de tout le reste de sa filmo. Maintenant, je veux pas dire... Enfin, le film n'est pas détestable. Hein, loin de là. Mais par rapport à ce qu'il a fait, même ne serait-ce que... deux films avant, comme Ponyo, c'était un chef-d'œuvre. Déjà, le truc sur les avions, là.
Le vent se lève,
j'étais moins enthousiaste. Ouais. Non, mais je veux dire.
Moi, je trouve ça vraiment cool, Le Vent se lève. Hein. Moi, j'aime vraiment beaucoup.
Non, mais le film est bien. Et surtout, encore une fois, la musique de Zaichi était très bien sur Le Vent se lève. Et là, j'ai trouvé que c'était le gros bug du garçon et du héros.
Pas vu Le Garçon et le héros.
La musique est très étrange. Et habituellement, Zaichi nous a habitués à des musiques qui accompagnent vraiment bien l'univers de Miyazaki. Et là, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat ou ceux qui regardent la vidéo.
Je suis mitigé sur Le Garçon et le
héros. C'est bien qu'il ait eu l'Oscar. C'est bien qu'on lui ait donné parce depuis le temps, il méritait. Ouais. Maintenant, moi, pour Cannes, je retiens plutôt qu'on va donner une palme d'honneur à George Lucas. Il était temps, plus qu'au studio Ghibli, qui en a pas réellement besoin. C'est bon, on sait que, enfin, il le mérite aussi, mais je veux dire, il va y avoir deux indépendants. Hein, le studio Ghibli avec Takahata Miyazaki et l'autre producteur dont j'oublie toujours le nom, qui mérite depuis très très longtemps d'être récompensé d'une palme d'honneur. Et Lucas, c'est bien parce que Lucas, on a beaucoup cassé du sucre sur son dos. Et quand même,
il a quand même contribué fortement.
Beaucoup de choses à dire de positif sur George et c'est bien qu'il lui donne une palme d'honneur à lui aussi.
Et je trouve ça vraiment intéressant le côté de faire une cérémonie pour un studio collectif, quoi, pour vraiment parce que l'animation c'est du collectif, c'est le truc
ouais, c'est vrai, t'as
et puis aussi à mon avis c'est aussi pour parler de Takahata, je pense, qu'il y a aussi, à mon avis, parce que Takahata, c'est quand même aussi le, un grand nom quand même de Ghibli, tu vois, genre, il a quand même fait une pelletée de chefs-d'œuvre, tu vois, genre.
Miyazaki qui disait qu'il était très feignant, mais bon, il a, après, il a fait moins de films que Miyazaki, mais.
Bien sûr, mais que, quel film, quoi. Même Kaguya, moi, je trouve ça extraordinaire.
Ah oui, c'est Kaguya, mortel, c'est quoi. Magnifique.
Donc, moi, je trouve ça très bien que vraiment que ce soit aussi de rappeler l'effort collectif que c'est de faire un film d'animation.
Je vous donnerai le lien de ma vidéo que j'ai fait, un petit montage hommage à Takahata quand il est mort, et je me suis fendu d'un petit montage de 3 minutes et rien que la musique que Hisaishi avait composée pour Takahata, c'est magnifique.
Carrément.
On regardera ça.
Allez.
Et
dernière petite
dernière info, et c'est à mes yeux la plus grosse, Quentin Tarantino abandonne son prochain film de Movie Critics qui était censé être son 10e et
dernier film.
Et son dernier film. Alors, qu'est-ce que ça devait raconter? Normalement, Movie Critique, ça devait narrer l'histoire d'un critique cinéma qui travaillait pour un magazine érotique dans le Hollywood des années 70.
Alors, tout ça ne sont que des rumeurs, mais bon, qui sont plus ou moins validées, voilà.
Et dans les rumeurs aussi, on retrouvait Brad Pitt qui reprenait son rôle de Cliff Booth qu'on avait vu dans Once Upon a Time in Hollywood et tout ça. Donc le film aurait été abandonné tout simplement parce que Tarantino dirait avoir changé d'avis.
C'est tout.
Alors en fait, c'est un film qui devait commencer, dont le tournage devait commencer cette année, en 2024, pour une question d'exonération fiscale en Californie. Donc en fait, il devait faire un jour de tournage en 2024.
Et reprendre en 2025.
Et reprendre le gros du tournage en 2025. Peut-être pour rappeler, Tarantino, ça fait des années et des années qu'il nous casse les oreilles à nous dire « je ne ferai que 10 films, il n'y en aura pas un de plus ». Et on a les.
Je rappelle que Besson avait dit la même chose. Hein.
Ah ouais, Besson avait dit la même chose. Et donc il y a plusieurs projets ces dernières années qui ont été abandonnés par Tarantino,
notamment son Star Trek,
notamment son film Star Trek bizarre.
On aurait aimé qu'il fasse Star Trek. Vraiment, après, j'aurais adoré.
Est-ce qu'il nous casserait pas les couilles un petit peu avec cette idée de 10 films?
Si, moi je trouve que c'est une idée à la con, mais l'autre truc c'est. Je pense que si il le sent pas et qu'il sent qu'à l'écriture, au final, il n'arrive pas à dérouler son truc, qu'il abandonne le projet en soi. Si c'est pour nous faire quelque chose d'autre qui sera mieux, ça ne dérange pas.
C'est marrant d'en avoir autant parlé, d'avoir autant teasé le film pour au final dire non, c'est mort, on annule tout.
Mais peut-être qu'il est aussi bloqué avec le fait qu'il ait toujours dit qu'il ferait que 10 films et d'avoir le, il faut que ce soit mon chef-d'œuvre et tout, et que peut-être ça bloque aussi les choses. Je sais pas.
Ça c'est peut-être aussi redondant un peu avec l'ambiance de Once Upon a Time à Hollywood.
C'est possible.
Ouais. C'est à peu près la même période.
C'est les deux.
C'est le même milieu.
C'est l'année suivante, quoi.
Voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé Once Upon a Time à Hollywood. C'est vraiment un très beau film.
Carrément.
Encore une fois porté par ses acteurs. Hein.
Ouais.
Mais c'est peut-être aussi ça qu'il a un peu bloqué de revenir sur les mêmes traces de son dernier film.
Ouais. Ouais, mais il a fait deux westerns consécutifs.
C'est vrai.
Et là deux décennies consécutives, donc parler de la fin des 60s et parler du milieu des années 70. Ça paraissait logique. Moi, ce que je me dis, en fait, c'est que oui, je comprends qu'il ait envie de passer à autre chose. Et lui, son grand thème, sa grande raison de pourquoi il veut arrêter, c'est que il dit que certains réalisateurs font des très mauvais films à la fin de leur carrière. Et lui, il veut pas s'éterniser, quoi. Il veut sortir tout ce qu'il a à sortir maintenant. Et ensuite, on passe à autre chose et lui, ce qu'il veut faire, c'est faire des pièces de théâtre, écrire des livres, ce qu'il a déjà commencé à faire avec son bouquin Once Upon a Time. Peut-être que The Movie Critic, c'est un film dont on entendra un peu plus parler dans le futur. Peut-être qu'il le réadaptera en pièce de théâtre,
en livre,
on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est dommage de se focaliser là-dessus. Moi, je comprends qu'il a envie de faire d'autres choses, mais 11, 12, 13, on s'en fout, quoi. Fais le nombre de films que tu as envie de faire, vraiment, et ça ne change rien.
Oui, et puis l'avoir dit aussitôt dans sa carrière aussi, de faire que 10 films, je trouve que c'est vraiment se cantonner à une idée très précise. C'est un peu dommage, mais bon, enfin bref. Messieurs,
Bernard, tu voulais donner.
Non, mais après, moi, d'un côté, je suis un peu d'accord avec toi, tu vois, du truc, c'est peut-être un peu abusé de dire 10, absolument, machin. Mais d'un côté, je trouve ça a vraiment du sens, tu vois, comme idée de dire, il faut que j'arrive à m'arrêter au bon moment.
Ouais.
Et c'est un truc hyper important, tu vois, et genre, en vrai, genre, je trouve ça plutôt respectable comme démarche, tu vois. Et donc, le fait de se casser la tête à dire, ok, faut vraiment que je trouve mon dernier film, tu vois, genre, bon, je trouve ça une question un peu bizarre, mais je trouve que ça a quand même du sens de se dire, ok, faut que je m'arrête. je sais quand je m'arrête et comment je dois m'arrêter. Ouais. Je trouve que c'est hyper important de se poser la question, tu vois, en tant que qu'artiste créatif, tu vois, genre.
C'est vrai que c'est une approche particulière, quoi. C'est une approche intéressante.
C'est pas Soderbergh qui avait dit aussi qu'il arrêtait, puis finalement il a continué.
Ah ouais. Oh oui, mais il y en a plein qui vont
s'appuyer.
Eddie Mitchell. Oui, c'est ça. Miyazaki, il arrête toutes les deux semaines.
Ah oui. Eddie Mitchell, il a fait 150.
Il y a eu un excellent dessin de Boulet, le dessinateur que j'adore, qui avait fait un dessin avec Miyazaki. Il avait représenté Miyazaki en chat. Ça, c'était tellement bien. Il y avait un chat avec la tête de Miyazaki. Donc le chat rentrait. Puis finalement, il demandait à sortir. Puis il re-rentrait. Il ressortait. Un chat, quoi.
Ouais.
Miyazaki, c'est un chat. Il sait pas se décider. Bon, et alors, je vous signale, alors, je peux vous retrouver le lien, que sur, Internet, sur les internets, au Japon, sur la chaîne, je crois que c'est sur NHK. Je vous retrouve le lien. Je l'ai gardé. Je l'ai bookmarké quelque part. Il y a 4 reportages de 50 minutes.
Carrément.
Sous-titrés français. Donc, qu'on peut comprendre.
Ouais.
Qui suit Miyazaki pendant toute la création du garçon et du, enfin, en tout cas, une très grosse partie.
Ouais. Et on voit. J'ai vu 2 épisodes de
c'est
ça.
C'est génial.
C'est trop bien.
Okay. Il a 2 chevaux.
Ouais. Et en fait, genre, c'est hyper deep. Ça raconte vraiment plein de trucs de lui. Même, moi, toutes les scènes qui m'ont un peu marqué, c'était les scènes avec son fils et son petit-fils. Où, du coup, en fait, il a une relation très bizarre avec son fils parce que, en fait, il le considère comme un très mauvais, réalisateur.
Il l'humilie publiquement.
Il l'humilie en permanence. Et même dans le documentaire, du coup, on voit, en fait, qu'il a un regard un peu bizarre d'empathie parce que c'est quand même son fils. Mais en même temps, il dit, bah, créativement, t'es nul, quoi. Enfin.
Génial.
Et en même temps, il y a aussi ce rapport, avec son petit-fils qui est aussi arrivé, il se dit peut-être que la relève en fait elle sera là. Il a tout un truc très pensif, c'est très, il y a une vraie ambiance très lente et tout ça qui se penche vraiment sur sa psychologie.
Comment ça doit être pesant pour la famille.
Ah c'est quelque chose.
Ah ouais, ça doit être une histoire familiale compliquée.
Alors, j'ai pas fini la série, mais des 2 épisodes que j'ai vus, franchement c'était.
Il y en a 4 mortel. Épisodes. Faut que je retrouve ça, je vous le retrouverai, je vous passerai le lien parce que à mettre dans les, parce que c'est incroyable. Ouais. Et là on voit. Que Miyazaki est un personnage torturé quand même.
Ah ouais.
Il a l'air un peu fucked up, ouais.
Carrément.
Monsieur, je vous propose des petits jeux.
Oui,
on jouons. On vient discuter. Je vous ai concocté des petits jeux ce soir. Il y a du débile. On peut commencer par un petit jeu un peu con.
En régie, c'est tout bon pour les jeux. Vous êtes paré.
Je vous propose le premier jeu. C'est Oscar ou pas Oscar.
Ah.
Ok.
Je vais vous donner un nom. D'acteur ou d'actrice, à vous de me dire si Oscar ou pas Oscar.
Alright.
C'est aussi con que ça.
Le jeu, est-ce que le chat a compris? Ah oui, si, je remercie quand même Fincher qui nous a envoyé 100 bits au passage.
Oui,
c'est hyper cool.
Fincher.
C'est adorable. On a pas, j'essaye de caler les remerciements.
On voit entre
deux chroniques,
mais. Tout à l'heure, n'hésitez pas.
Et n'hésitez
pas à participer.
N'hésitez pas à jouer. S'il y a des modos dans le chat qui sont prêts à faire des sondages, on est trop chaud pour que le chat puisse jouer aussi au jeu.
Alors.
Ah, je ne regarde pas, je ne me spoil pas.
Ah, je regarde,
non, ne te spoil pas. Alors, attention, messieurs. Sam Rockwell, Oscar ou pas Oscar?
Oscar.
Oscar.
Pas Oscar, du coup.
Pour, Confession d'un dangereux.
Pas du tout. C'est pour, effectivement, Oscar, et c'est pour Three Billboards en tant que second rôle.
Okay. Ah oui, Three Billboards.
Nathalie Portman.
Pas Oscar.
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 Pas Oscar.
Pas Oscar. Oscar pour Black Swan.
Mary Black Swan.
Black Swan.
Ok, ouais.
Michel Pfeiffer.
Pas Oscar.
Pas Oscar.
Oscar par contradiction.
Eh ben non, pas Oscar. Michel Pfeiffer.
C'est honteux.
Michel Houellebecq.
C'est juste honteux.
Oscar.
La plus belle femme du monde.
Attention, Al Pacino.
Meilleur Catwoman.
Oscar.
Oscar. Al Pacino.
Mais peut-être pas en
pas
premier
Oscar.
Rôle. Peut-être en second rôle.
Ah si, Le Parrain 2. Non.
Pas Oscar.
Ah si, non, Oscar.
Oscar, Oscar, Oscar.
Oscar Pacino.
Eh ben, Oscar pour Le Temps d'un week-end.
Ok.
Oui, j'ai vu ça, j'étais curieux.
Oui,
c'est quoi, Le Temps d'un week-end?
Je ne sais plus.
Je ne sais plus, je ne l'ai pas vu, moi, personnellement. Harrison Ford.
Pas Oscar.
Pas Oscar. Pas Oscar, ouais.
Effectivement, pas Oscar.
Bon, il mérite pas.
Oscar.
Tu l'aimes pas personnellement?
Ah, les mots
sont non, j'aime pas Harrison Ford. Alors, j'adore Indiana Jones, j'adore les personnages qu'il a interprétés.
C'est quoi, tu l'as eu
j'aime
en
pas, non, j'ai jamais eu ce plaisir. J'aime pas Harrison Ford, surtout récemment, enfin, je veux dire, de ces dernières années. C'est un personnage absolument détestable.
Ouais.
Et il a beaucoup influencé, je pense, la façon dont on l'a filmé, dont il apparaît dans des films comme Star Wars épisode 7 ou le dernier Indiana Jones, que personnellement, j'ai subi comme une torture.
De Indiana Jones?
Ouais.
Pire que le 4?
Ah oui. Ah oui, clairement. Ah, bah, déjà, un, pas Spielberg. Donc, j'ai rien contre James Mangold, mais Spielberg, mine de rien, Il y a quand même quelques trucs dans le cadre qui sentent la patte de tonton. Mmh. Et ouais. Donc voilà. Et puis le 4, c'est une vraie histoire, c'est une vraie aventure d'Indiana Jones. Après, il y a des trucs débiles, il y a des trucs ratés, mais c'est quand même Indiana Jones. Mmh. Le 4, ça aurait dû être un passage de flambeau, ça aurait dû être la fin d'un héros, un truc comme ça. On n'a rien vu de tout ça. Moi, j'ai vu un papy râleur
qui a du mal à avancer,
qui fait chier tout le monde et qui déteste le monde entier.
Harrison Ford.
Mais je pense qu'Harrison Ford a beaucoup sa personnalité a beaucoup influencé le personnage.
Ouais. Et toi, t'es un peu d'accord non sur le 4. T'as vu le 5 ?
Moi, j'ai pas vu le 5. Ah, okay, moi, j'aime plutôt. En fait, c'est un plaisir coupable le 4.
Ouais.
Donc.
Ouais, mais ça, tu en parleras de toute façon avec Quentin. Mais
le podcast, nos plaisirs coupables.
Bien sûr. C'est vrai que le 5, en fait, tu vas voir un film, je prends un exemple, tu vas voir un film sur Batman, t'as pas envie de suivre les aventures de Robin.
Ouais.
C'est ce que je veux dire, d'Alfred. Ou d'Alfred.
Parce que là, c'est clairement les aventures d'Alfred, dans Jones 4, quoi.
Et 5. Et
5, oui, pardon. C'est une cata. C'est une cata, rien ne va, la musique de William, même la musique de William, ça va pas.
Terrible, hein.
Mais non, c'est du repompage d'autres morceaux, y a rien de nouveau, c'est la première fois qu'il fait ça. Bon, maintenant il a 93 balais et franchement, il doit en avoir.
Mais on était sur
plus
un
que
jeu,
ça, mais voilà. C'est vrai. Allez, vas-y, continue.
Alors attention, Oscar ou pas Oscar, Oscar Isaac.
Pas Oscar.
Ah, non,
ça
pas
va être que des Oscars.
Pas d'Oscar, pas d'Oscar. Trop jeune, pas d'Oscar.
Pas d'Oscar. Pas d'Oscar.
J'ai Oscar.
Bah pas Oscar, mais Oscar quand même. Oscar Isaac, moi désolé, c'est un Oscar.
Ah oui, bien sûr.
C'est un Oscar. Mais pas Pardon. Oscar.
Okay.
Mais Oscar quand même.
Ouais.
C'était la seule Vanna que j'ai trouvé.
Mais c'est drôle, mais c'est très drôle.
Ouais, tout le monde a beaucoup ri. Ouais,
je rigole.
Je m'en mets pas.
Le chat, vous avez beaucoup ri.
Sean Connery, Oscar ou pas Oscar ?
Pas Oscar.
Pas Oscar.
Oscar, ouais. Oscar, second rôle, Les Incorruptibles.
Ah oui, et c'était tellement mérité.
Et alors, attention, Scar.
Les Incorruptibles.
Pas d'Oscar, du coup.
Scar, pas d'Oscar.
Bah, à moitié.
Parce qu'il a meilleur
Scar,
film.
À moitié d'Oscar.
Ah.
Oh.
Bah, Scar, Oscar.
Oscar.
C'est qui fait la voix d'Oscar?
Bah oui, Jeremy Irons, Oscar, bien sûr.
Et bien sûr.
Pour le mystère de Von Bülow.
C'est quoi
le mystère de Von Bülow?
Film de 91.
Ok, ce qui termine, c'est vraiment que les Oscars, ils récompensent des trucs où vraiment, la moitié, 30 ans après, tout le monde a oublié. Mais...
Carrément.
Et attention, dernier, Catherine Hepburn, pardon.
Non, Oscar.
Jamais Oscar.
Pas d'Oscar pour Catherine. Moi, j'ai donné un Oscar.
Ah, si, 4 Oscars pour Catherine.
Ah, quand même.
Ah, oui. Ah, oh.
À l'époque,
c'est
ça y est.
C'est la femme qui a eu le plus d'Oscars.
Ah, ok.
Ouais. 4, c'est le max.
Oh, puis c'est mérité. Quelle actrice incroyable.
Évidemment. Attention, nouveau jeu. Celui-là, vous allez pouvoir, dans le chat, bien participer. Ça va être un peu moins rapide. C'est ces acteurs qui se sont lancés dans des business.
Ok.
J'ai cherché des acteurs qui... comme Gwyneth Paltrow avait fait une bougie
à l'odeur de son vagin,
j'ai cherché plusieurs acteurs qui auraient fait un petit business, voilà, qui a rien à voir avec leur carrière d'acteur.
Okay.
Et donc, je vais vous proposer 4 propositions. À vous de trouver laquelle est la bonne.
Alright. D'accord.
Okay.
Ok.
Alors, par exemple, est-ce que Scarlett Johansson a 1. ouvert une boutique de popcorn à la truffe.
Ok.
B. commercialisé des hand spinners.
Ok. C'est pas possible.
Aurait sorti une marque de coloration naturelle pour cheveux.
Ok. Ah.
Ou aurait fait une collab avec Tesla.
C'est la A, là. C'est la coloration avec les cheveux.
Coloration pour cheveux.
C'est vrai qu'elle a des couleurs de cheveux variantes. Très différentes. Très, très variables dans ses films. Je serais assez tenté par la A, ouais.
And Spinner, c'est bon, c'est
mais
pas
mais sinon, je vais pas faire comme tout le monde. Je vais dire D. Une collab avec Tesla.
Non, parce que le And Spinner,
c'est mort.
C'est pas une chipeuse, tu vois. Ouais, le popcorn, en vrai, pourquoi pas, elle fait un truc avec lien avec le cinéma. Collab avec Tesla, peut-être.
Ouais, ça me paraît quand même bizarre, collab avec Tesla, je sais pas.
Coloration pour cheveux, ça me paraît.
Coloration pour cheveux.
Ouais, pareil.
Et vous avez tous les trois faux, les gars. C'était, des popcorn, elle a.
C'était pas impossible.
De popcorn, dans le Marais.
Mais okay. Non!
Si, pendant quelques temps.
À Paris.
Et en fait, il y avait des popcorns, mais alors c'était avec plein de goûts chelous. Il y avait truffes, il y avait parmesan, okay. Machin.
J'ai
fait ces petites lives. Il y a des images qui existent de
Scarlett.
Elle qui distribue du popcorn dans le Marais, dans un petit pop-up store.
Elle s'est fait plaisir.
Scarlett a fait plaisir. Ça.
Okay. Trop bien. Félicitations, Scarlett.
Est-ce que Sandra Bullock aurait ouvert une boulangerie, aurait ouvert un laser game, aurait ouvert un restaurant de poutine, ou aurait ouvert un nightclub à Tourcoing?
Oh. Boulangerie.
La boulangerie, c'est tentant.
Ah, les autres, c'est quand même un peu...
Le restaurant de Poutine, pourquoi pas,
hein. Ouais, mais avoue que le Laser Games, ce serait classe.
Les autres...
Ouais, le Laser Games, c'est trop récent.
Ah, non, mais elle a très bien pu le faire cette année.
Après, moi, si je cite ton cerveau
malade... C'est cette année.
Non, non, non.
Après, si on suit l'esprit de ton cerveau malade, tu vois, genre de des blagues que tu pourrais faire...
À Tourcoing.
Ouais, le Night Club à
Tourcoing. La boulangerie, ça paraît quand même plus probable.
Même l'existence de Tourcoing, si tu veux. C'est pas le marais, quand même.
Il y a plein d'acteurs...
Ils vont à Tourcoing.
Peut-être pas à Tourcoing, je suis d'accord.
Tom est capable de trouver ce genre d'informations. Ces informations sont
mais la boulangerie, moi, je vote.
Ouais, la boulangerie, boulangerie.
Et bah, par rapport à l'autre question, vous avez tous les trois raisons cette fois-ci. Okay. Elle a ouvert sa petite boulange et la farine et tout, ça vient de sa ferme.
C'est trop stylé. Elle a ses petits bails. C'est marrant de fou.
Ça, c'est bien, ça, c'est bien.
C'est un kiff. Quand t'as plein de thunes comme ça, tu peux vraiment te faire plaisir dans la vie. Hein. C'est fou.
C'est clair.
Est-ce que Jennifer Garner aurait commercialisé des petits pots pour bébés? Mmh. Aurait créé sa marque de saille, les petites. Alors un saille, c'est les petites épées comme dans Electra là, avec les trois bouts.
Ah oui, d'accord.
Okay, okay. Ah ouais.
Aurait sorti un recueil de poèmes un peu tendancieux. Ou okay. Aurait tout simplement sorti sa marque d'endives aux jambons.
Ah. Ouais, je discarde les endives aux jambons parce que c'est vraiment trop franco-français comme.
C'est vraiment dégueulasse aussi.
Les poèmes tendancieux. Ah bah on a plus de caméra.
Bah, c'était le bobby des Antilles,
tu vois. Les poèmes tendancieux, c'est pas une membre du gouvernement Macron, donc non.
Wow, ça oui, dénonce ici.
Pour ceux qui savent pas, il y a oui. Deux ou trois membres du gouvernement bien qui sûr. Ont écrit des livres érotiques.
Voire qui envoient des photographies de leur sexe par texto. C'est arrivé. Mais depuis, il n'est plus membre de rien du tout. Ouais, juste à ce propos de membre.
Bon allez, petit pot pour bébé pour moi.
Petit pot pour bébé.
Je sais pas, c'est un peu trop facile le petit pot.
Moi Marc de Saï, ce serait vraiment fun. Hein.
Ça serait fun hein.
Ah peut-être qu'elle kiffe son rôle de Electra.
Ou poème, en vrai, ça se trouve poème un recueil de poèmes.
Ah, je vais prendre la marque de Saï. Moi je trouve ça trop bien.
Les petits pots pour bébé, je sais petit pas, je me dis elle bébé. Est devenue maman, elle s'est dit ouais, ce qu'on file à nos gosses c'est pas assez bien, j'ai de la thune, je vais créer ma propre marque de je sais pas.
Et toi Werner?
Ouais, petit pot pour bébé.
Et bah vous avez raison les gars, c'est petit pot pour bébé. Yes. Ah. Et je déplore le fait qu'elle ait pas sorti sa marque de Saï.
Ouais, moi, ça aurait été trop bien. Ça aurait été trop bien.
Ça aurait été un peu stylé.
Jennifer, si tu nous entends, fais-le.
Georges Clooney, est-ce qu'il aurait sorti sa marque de tequila? Est-ce qu'il aurait sorti sa marque de chemise? Ou est-ce qu'il aurait sorti sa marque de tisane? Ou sa marque de mocassin à gland?
À gland, c'est-à-dire?
Mocassin à gland.
Ou du mocassin, le mocassin. Oui, ou bon. Il y a du mocassin à gland aussi.
Donc tisane, tequila, une marque de chemise et bon, de mocassin.
Moi, je dirais chemise.
Il faisait du café déjà, mais c'est trop évident.
Ouais.
What else,
moi j'ai les chemises parce que c'est très classe.
Ah oui,
quand
la
même.
Chemise
très classe.
Bah oui, en plus il est classe. Genre.
Il a une image de genre idéal très classe.
C'est vrai que la chemise c'est un truc.
Et le la tequila c'est pas très raffiné.
À brander George Clooney quoi.
Ouais, la tequila c'est pas très raffiné.
Alors la tequila c'est pas mal aussi quand même.
Il y a
même.
Plein d'acteurs qui font tequila. Hein.
Ouais. La tequila c'est
Dwayne
bien.
Johnson,
hein.
Non, il fait du rhum lui.
Il a fait
ou du whisky.
Tequila, je crois, hein, Dwayne Johnson, justement,
ah ouais
son business, ouais. Mmh. Enfin bon, ah, c'est bon. La question suivante. Donc.
Va savoir.
Chemise. Moi, je dis
ouais, chemise.
Chemise.
Mocassin. Non, c'était bien sa marque de tequila.
Ah, ok. Non, on a été tenté.
Fan
hein.
De tequila, le George.
Ok, gros ouais, alcoolique.
On a été tenté.
Il a bien raison.
Pas du tout.
Ok.
George Lucas.
Oui.
Est-ce qu'il aurait
des vignobles.
Commercialiser sa bouteille de vin.
Ouais, c'est ça.
Possède une part chez Pampers.
Et ça s'appelle même le Skywalker Wine, enfin le
non.
Un truc comme ça.
Non.
Ok.
Est-ce qu'il aurait sa marque de costume? Non, pardon, c'est lancé dans l'élevage bovin ou alors sa marque de vape.
De vape?
De vapote.
Ah non, c'est pas son truc. Bah le vin, c'est parce qu'en fait Coppola fait du vin.
Ouais. Et pas que, et de la weed aussi.
Oui, mais surtout du vin. Qui est très bon, hein, j'en ai à la maison. D'ailleurs, okay. Vous pouvez en commander assez facilement le vin de chez Francis.
Et c'est comme ça qu'il a financé son nouveau film.
Et le vin de Francis est très bon. Et sur les conseils, parce qu'ils sont dans la même région, au nord de San Francisco, la fameuse Napa Valley. Mais Lucas est un tout petit peu plus au sud que Coppola, qui est un tout petit peu au-dessus. Mm-hmm. Il y a des gros vignobles beaucoup plus au-dessus. Et surtout, les vignobles du Skywalker Ranch sont beaucoup plus petits que ceux de
Coppola.
Que ceux de Coppola. Mais donc, je voterai quand même pour le vin, sous l'influence de Francis.
Ouais, mais moi, j'ai déjà vu les bouteilles. Il y a un petit Skywalker oui. Dessus. C'est...
Je ne sais pas.
Je sais pas s'ils sont extrêmement...
Non, en effet, c'est bien les bouteilles de vin. Et alors, la bouteille, il faut faire gaffe. Parce que vraiment, t'as... tout le packaging, c'est hyper classe, c'est très sobre, ça fait vraiment bouteille de vin. Et tout au-dessus, t'as un petit logo avec le nom de l'entreprise. Et juste au-dessus, t'as Skywalker Ranch.
Ok, d'accord.
Donc c'est assez discret.
J'avais déjà vu une étiquette.
Mais il y en a peu. Hein.
Pour revenir à Coppola, Coppola a fait beaucoup, beaucoup de vin. Et en fait, il a revendu toute une partie de ses vignobles quand il y a eu une loi qui est passée en Californie pour légaliser la weed. Et il les a transformés en champs de weed. D'accord.
Alors, j'ai une question subsidiaire à ta question.
Ouais.
Quel autre acteur extrêmement connu a aussi un vignoble réputé?
J'ai pas.
Alors on va dire anglo-saxon parce que il y a peut-être des Français. Donc, acteur Brad extrêmement Pete. Connu, c'est possible. Brad Pitt, c'est possible. Brad
Pitt. Ils vivent tous en Californie.
Non, alors justement, c'est pas du vin californien.
Ouais, c'est un vin français.
Non, c'est beaucoup plus au sud. C'est dans l'hémisphère sud.
Argentin, des choses comme ça.
Alors oui, enfin ouais.
Rodriguez.
Non. Alors non, un acteur qu'on aime beaucoup et qui a joué dans des films de réalisateurs comme Steven Spielberg, un acteur qui a de la bouteille. C'est le cas de le dire.
Je sais pas
américain.
Ah, français ?
Non, 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 anglo-saxon mais pas américain.
Anglais ?
Non.
Mais attends, mais
non, anglo-saxon.
Australien ?
Ah,
Mel Gibson, non ?
Non.
Ah non, en plus, il est pas australien.
Mais Hugh Jackman, il est pas dans
non,
Spielberg.
Non, pas Hugh Jackman. Bon, je vous le donne.
OK.
Sam Neill.
Ah ouais,
Sam
ah
Neill a un énorme vignoble et il fait du très bon vin aussi, Sam Neill.
Okay.
Et il est en Nouvelle-Zélande.
T'as une bouteille de...
Non, j'ai pas acheté parce que il est cher à faire venir.
D'accord.
Contrairement au Coppola qui est importé en France de manière régulière, donc vous pouvez acheter son Cabernet, un peu tout, son Pinot, etc. Donc on le trouve à des prix raisonnables, c'est-à-dire quand même pas loin de 20 euros ou aux alentours de 20 euros la bouteille, ce qui est déjà pas donné quand même.
Ouais.
Mais Sam Neill, le problème c'est qu'il n'y a pas d'importation, il faut l'acheter là-bas et ça coûte assez cher à faire venir. Mais je crois que je vais me laisser tenter.
Tu dois avoir des frais de douane, parce que c'est de l'alcool.
Alors le prochain, on a De Niro. Est-ce que De Niro possède une part des restaurants Nobu? Qui sont des restaurants assez réputés, possède une part chez Pampers.
Ok.
À lui aussi.
Est-ce qu'il aurait sa propre marque de costume? Ou est-ce qu'il possède des parts chez Smith & Wesson, qui sont des flingues?
Ah oui. Je vois pas De Niro faire dans le flingue.
Ouais, bizarre. Ouais.
Il est plutôt à gauche. Hein.
Non, mais restaurant Nobu, parce que quelqu'un sait ce que c'est, les restaurants Nobu, là?
Non, pas vraiment.
Tu n'aurais
pas inventé
c'est
ça.
Hyper populaire. Ou alors, ça n'existe absolument pas, le restaurant Nobu.
Les restaurants Nobu.
C'est un restaurant Nobu pour vous
trois.
Je veux
dire les costumes. Moi.
Allez.
Les costumes, toi tu dis costumes.
Ouais.
Tu dis
je dis restaurant avec toi, ouais.
Restaurant Nobu, en effet, il a la moitié des parts, je crois, dans des restaurants avec,
dire,
un gars.
La moitié de la franchise Buffalo Grill.
J'aurais adoré.
You're talking to me?
Et attention, le dernier. Est-ce que Dwayne Johnson a fait sa marque de tequila, a fait des sneakers signature, a créé des glaces inspirées de ses cheat meals ou à départ dans une ligue mineure de football américain.
Ça serait possible parce qu'il a fait une série
où il
est coach.
C'est quoi, jouer l'audace.
Tequila.
On en a parlé juste avant, les gars.
C'est quoi, en fait, l'audace. Tout est probable, en fait.
Oui,
c'est vrai, en plus.
Parce que Tom fait très bien ses questions, mais quand on sait qu'il a une marque de tequila, tout de suite,
les sneakers. En fait, tout pourrait être un truc pour draguer les...
Il ne faut pas confondre la licence sur lequel les acteurs peuvent reposer ou vendre leur... comme George Clooney avec Nespresso.
Ouais.
Où c'est carrément un boulot de licence à ce niveau-là. Sa propre affaire. Et là, dans le cadre des sneakers, par exemple, ça pourrait être une licence.
Dwayne Johnson, il la met grave en avant. Il a tout un truc où il fait la promo de son truc sur les réseaux sociaux et tout. Mmh. C'est de la tequila, moi, je dis. Hein.
Tequila.
Eh ben c'était les quatre.
Aïe aïe aïe.
Oh,
c'est drôle.
Mais en fait tout est tout à fait logique.
Il a fait les quatre.
Mais c'est quoi Good Cheat Meal exactement? Je serais curieux de savoir.
Alors c'est Cheat Meal, ça doit ça être je sais pas, c'est frites, des
goûts improbables.
C'est ça, il se dit genre je vais combiner bien le tout pour en faire.
C'est étonnant quand même.
Bien, je t'aime. Bien joué, bravo.
Merci. Est-ce que vous saviez que Dan Aykroyd, vous voyez ou pas les
Oui, bien sûr.
Les bouteilles de vodka en forme de tête de mort?
Ouais.
Ouais.
Bah ça appartient à Dan Aykroyd, l'un des Ghostbusters, le mec
qui surtout l'un des Blues Brothers.
Dan
Aykroyd, il a aussi lancé une série de boutiques Blues Brothers, que j'ai eu la chance d'aller acheter un t-shirt, même deux t-shirts Blues Brothers, qui sont à Universal, aux alentours de Disney. Je sais plus si c'est à Disney ou Universal. Disney peut-être, en Floride, bref. Les boutiques, non Universal, non Disney, enfin bref. Les boutiques
venez
sont très sympas et donc quand je rentre, j'ai commencé à discuter avec la vendeuse qui dit mais ouais, ça appartient en partie à Dan. Et Dan, quand on a lancé la boutique, il est venu et il nous a donné ça. Et elle me montre, c'est accroché sur un mur et il y a une porte de voiture de police. Et c'est la porte de leur voiture des Blues Brothers.
Ah, tellement stylé.
Il y en a eu plusieurs, évidemment, voiture. Et il a amené une des portes et il l'a accroché au mur pour la boutique Blues Brothers.
C'est excellent.
Voilà, donc si vous allez dans les boutiques des Blues Brothers, sachez que ça appartient aussi un peu à Dan Aykroyd. Et il amène des props à mettre dans la,
ah,
dans
génial.
La boutique.
Ah, génial.
Il a des business florissants.
Mm-hmm. Un type chouette, Dan Aykroyd. Ah, ouais. Ah oui, et il a vraiment la réputation d'être quelqu'un de très, très adorable. Et c'est vrai qu'il a, enfin, il respire la gentillesse, ce monsieur.
Ok.
T'as un autre jeu pour nous ?
Ouais, j'ai un petit dernier jeu.
Allez, un petit dernier.
On fait ça. C'est le jeu du synopsis. En gros, je vais vous lancer un synopsis. Et c'est à vous de me dire si le film existe ou pas.
Ok.
C'est drôle. Il y a des synopsis que j'ai sûrement inventés et d'autres où j'ai laissé le nanar faire son petit bonhomme de chemin.
Oui, il y a des trucs improbables quand même.
Il y a des trucs improbables et c'est ce qui est assez intéressant, c'est que même quand tu peux créer, il y a des trucs où des fois tu peux pas créer plus que ce que des nanars peuvent faire en termes de synopsis.
Ouais, parce qu'à la base, ton jeu était différent. À la base, tu voulais donner deux synopsis possibles pour un seul et même film.
Pour un seul et même film, sauf que je me suis penché sur un nanar et en fait, je me suis dit, c'est trop compliqué, il y a des trucs beaucoup trop absurdes et je peux pas surenchérir. Et c'était très compliqué. Donc, on va faire ça comme ça.
Allez.
Alors, premier synopsis. Alors que l'été arrive, Lino, un bourgeois quadragénaire, se retrouve à acheter un robot pour nettoyer sa piscine afin de profiter des beaux jours. C'était sans compter sur Mac 9000, son robot nettoyeur, qui va chercher à tuer son nouveau maître pour gouverner le monde.
Oh oui, ça me paraît tout à fait probable, ça.
C'est vrai que c'est pas déconnant.
C'est impossible en vrai comme jeu. Bon, allez, je veux dire, ça existe pas.
Ça existe pas.
Je veux dire, ça existe.
Moi, je dis que je finance, moi. Ça existe pas. Le scénario me plaît.
Je pense que ça existe.
Ça existe. Eh ben, ça n'existe pas du
tout. Ça va, alors.
C'est issu d'un esprit malade qui est autour de cette
producteur et productrice.
Je suis intéressé.
Vous pouvez mettre une option sur l'idée de Tom si vous le souhaitez.
Ça peut être développé. De nettoyage de piscine.
Attention, prochain synopsis. Le Titan 1C est un vaisseau spatial qui effectue son premier vol dans l'espace. Malheureusement, comme ses prédécesseurs, il est condamné au naufrage. Et les survivants devront affronter une menace extraterrestre particulièrement attirée par les jeunes filles.
Ouais, mais ça, oui, ça, bien sûr que ça existe.
Oui. C'est bien très sûr, pulp, c'est très sûr.
Si c'est pas les années 80, c'est une production Asylum récente. C'est ça, c'est l'un ou l'autre.
Eh bien, c'est un vrai synopsis, effectivement, et il s'agit de Titanic 3.
Mais oui!
Oh là là!
Et j'y ai pensé, et en fait, Titanic 3, c'est sorti en vidéo, chez nos amis de en DVD chez nos amis de VZ, je crois.
Ouais.
OK.
VZ, enfin, ils ont un nom de boîte improbable, ils me suivent, je les suis et ils ont des nanars, mais ça va au-delà du nanar, quoi.
Titanic. Et je crois Titanic que Prime 3, dans certains pays là aussi parce que Prime ils aiment bien sortir des gros nanars. Ils font beaucoup de Asylum aussi, mais c'est assez inintéressant.
Asylum, c'est moins drôle.
Parce qu'ils achètent des droits de plein de films pas chers pour.
Alors, et pour en revenir à ton robotoir du premier synopsis, est-ce que tu sais qu'il y a un film Trauma, tu vois qu'il y a une production Trauma qui s'appelle Blades et qui est un remake plan pour plan des Dents de la Mer.
Avec j'en ai entendu parler.
Avec une tondeuse à gazon dans un green de golf. Okay. Ça s'appelait Panique sur le green en français. C'était passé sur M6 à l'époque. Je l'ai vu en direct et j'ai halluciné. Je regarde le film, je dis mais attends, c'est pas possible. C'est les Dents de la Mer plan pour plan quoi. Mais avec une tondeuse à gazon. Et il y a même le coup des quand Quinn tire sur le requin et qu'il lui accroche des barils.
Des barils d'air.
Il y a la même chose avec des ballons d'hélium, quoi. Mais il y a tout. Le film est très drôle. Et ça m'étonne pas, c'est du Trauma Picture. C'est quand même pas si nanar. Enfin, c'est nanardesque.
Mais c'est assumé, c'est
bien fait.
Ça aime le cinéma. Le Kaufman, ce qu'il fait, c'est toujours par rapport au cinéma.
Moi, j'ai regardé ça. Ça peut me chauffer. Prochain synopsis. Quand un homme se retrouve exposé à des rayons plasma avec un goéland, il était loin de s'imaginer que leur ADN fusionnerait pour créer le plus grand duo de super-héros de toute l'histoire. Mi-homme, mi-goéland. Mi-goéland, mi-homme. Tremblé, criminel.
C'est quoi le nom?
Ça, c'est...
Ah, je ne vais pas dire ça.
Ah non, c'est trop facile.
Ça n'existe pas.
Moi, je parierais pas sur le goéland. Je pense que c'est pas un animal totem assez puissant.
C'est un animal si noble.
C'est pas vendeur, le goéland.
Je crois pas.
Ah, déjà, je sais pas réussi à vous séduire.
Non, t'aurais pris un autre animal, je sais pas.
Même une mouette. L'homme puma, qui est très,
l'homme puma, bien sûr.
Un super nanar, qui est très rigolo.
Mais le goéland. L'homme buse.
Alors, attention, le prochain synopsis. Mario, petit génie de l'informatique, se retrouve projeté à l'intérieur de son ordinateur, où il devient Super Mario. Pour sauver la princesse Maria, il devra affronter l'affreux comte Dracula. Mais pas d'inquiétude, Mario a un pouvoir secret, se transformer en Sangoku.
Non, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Ouais, alors, là, pour le coup, ça pourrait ressembler à un scénario Asylum, quoi.
Ouais, ou un dessin animé raté, tu sais, produit en Allemagne.
Un Mondo Picture.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
Non, mais, oui, ça pourrait être un Mondo. Ça pourrait être un Mondo Picture, ouais.
J'y crois pas.
Moi, je dis que ça peut être un Mondo.
J'y crois un peu. Je dis, ok.
J'y crois pas.
Eh bien, ça existe, et ce n'est pas un Mondo.
Mais c'est du même
vous
genre.
Vous avez une super affiche.
Là, ouais,
ça m'étonne pas.
Super Mario versus Sangoku.
C'est fou.
Ouais, faut savoir qu'ils ne se battent jamais dans le film. Et que Mario, à la fin, quand il se fait combattre par Dracula, se transforme en Sangoku le battre.
Mais c'est le côté Dracula qui m'a fait y croire. Parce qu'il y a toujours dans les nanars, il y a toujours un moment, il y a Dracula qui se ramène. Il y a plus de droits sur Dracula, c'est trop vieux. Donc on peut y aller.
Là, visiblement, ils ont rien à foutre des droits d'auteur.
Oui, clairement.
Mais attends, mais c'est de quelle origine ce film?
Tout de suite, je peux pas te le dire. Faudrait que je regarde sur l'excellent site Nanarland que je conseille à tout le monde, qui le diront. Donc, je vous conseille d'aller voir et de chercher. Et ils expliquent tout le film. Il y a des images absolument géniales.
C'est trop marrant.
C'est ouf.
Voilà. Dernier synopsis.
Okay.
Une météorite portant en elle des clowns assoiffés de sang tombe sur la Terre.
Oui, c'est Killer Clowns from Outer Space.
La bande de clowns commence alors à tuer tous les habitants d'une petite ville à coups de gags mortels.
C'est trop marrant. Quand
je l'ai vu et il existe.
Oui, Killer Clowns.
Et c'est effectivement...
Avec
c'est
un tout jeune, hein.
Les clowns tueurs venus d'ailleurs en français.
Oh, c'est pas tout jeune, ça date des années 80, ça.
Il est sorti en Blu-ray, moi je l'ai en Blu-ray.
Super Mario versus Sangoku, c'est philippin.
C'est philippin, oui, bah voilà.
Quelque part, ça m'étonne pas.
Et ça date de quand?
Ça date de 1995.
Ah, il n'y avait pas de droit d'auteur en 1995.
Non, mais il n'y en a toujours pas aux Philippines.
Non.
Mais tranquille.
Sauf qu'ils ont refait aussi ils ont refait des Star Wars.
Ah oui, il y a
Killer Clowns, c'est fun. Mais
Killer Clowns.
Mais il est connu en vrai.
Je trouvais en tout cas le synopsis de celui-ci assez marrant.
Oui, je sais pas si c'est une invention de mon cerveau parce que je l'ai vu il y a quelques années, mais je crois qu'ils sortent de leur vaisseau et le vaisseau est trop petit et du coup il y a plein de clowns qui sortent comme une.
Ouais, et puis ils ont un peu pompé ça quoi. Où c'est vraiment le film ça,
ouais.
Le film ça qui est de base une espèce de créature.
C'est une comédie Killer Clowns. C'est vraiment une grosse comédie.
Okay.
C'est un film d'horreur comédie.
Le néon qui est tombé derrière.
Oui, le néon nous a abandonné.
J'avais pas vu. Ah, l'émission galère. Eh ben, écoutez, messieurs, c'est la fin de l'émission.
On est rentré aujourd'hui d'Avignon et on a réussi à faire une émission quand même si on l'a décalé d'une heure et que
le néon se barre.
On a dû gérer quelques
trucs
en arrivant. J'espère
fin.
Que ça vous a plu à tout le monde dans le chat. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir été là. Merci pour le raid tout à l'heure.
Merci les gars. On rappelle que l'excellente chaîne Werner MP3 à ma droite. David,
sonvideo.com pour les chroniques du rayon bleu. À venir beaucoup de chroniques si j'arrive à les faire. Et puis Total Tracks pour la musique de film
Total
en
Tracks.
Podcast.
Ouais, bien sûr,
énormément.
On vous conseille énormément tous tes travaux, la chaîne YouTube de Werner.
Mais oui.
Nous, on vous recommande une petite dernière fois d'aller suivre
nos réseaux sociaux
@CaméflexLive et de retrouver l'émission en podcast dès demain
et sur
YouTube dans la semaine.
Carrément. On se dit à la semaine prochaine et on est ravis de vous revoir potentiellement dans une future émission.
Mais oui,
vous êtes déjà prévu.
Peut-être pas la semaine prochaine, mais bientôt.
Mais oui, on se revoit très vite et vous reverrez très vite.
Un immense merci au chat, un immense merci à vous.
Le chat,
des bisous. Nous, c'est pizza.
Ouais, c'est pizza.
Ciao.
Et merci à la régie.